Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler de leurs expériences et voir avec eux la façon dont ils appliquent le framework ARP. Il n'y a pas de vérité absolue dans le SEO. Ce n'est donc pas un canal d'acquisition que l'on peut envisager de la même façon que tous les autres, c'est-à-dire en répliquant des méthodes et des bonnes pratiques. Et pour cause, personne ne peut vous garantir que cela va fonctionner. Alors comment on fait pour optimiser au mieux son référencement? Eh bien, on garde l'esprit ouvert et on teste de façon pragmatique.
Je passe mon temps à faire des tests. J'entends une idée, faire trois liens en blanc, ça fonctionne. Bon, bah, je teste et puis je regarde. Et ça fait toute la différence avec ceux qui disent « Ah, il faut faire trois liens blancs parce qu'en fait ça marche, machin il a dit ».
François Treka est un chef de chantier SEO, ou plutôt un industriel web, qui construit des sites dans le but de proposer à ses clients la solution optimum pour faire du lien, optimiser son netlinking. C'est surtout un passionné de SEO qui partage sur son blog tous ses tests sur le référencement. Du contenu carré, pragmatique et précautionneux, où il n'hésite pas à remettre en question constamment les croyances collectives SEO et autres légendes urbaines. Dans cet épisode, on passe en revue tous les aspects du SEO, le white et black hat, le référencement on-site avec linking interne et optimisation du texte, le référencement off-site avec toutes les méthodes de netlinking, dont la solution préférée de notre invité, le PBN, pour Private Blog Network. Si vous n'êtes pas super calé en SEO, cet épisode va vous débroussailler tout ça. Et surtout, le plus important, vous aider à appréhender le SEO avec le bon état d'esprit. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à la Growth Semaine, la newsletter qui sélectionne la crème des contenus growth marketing disponibles et que vous recevez chaque week-end dans votre boîte mail. Les optimisations SEO testées et approuvées, on en parle tout de suite, c'est parti. Je reçois aujourd'hui dans le podcast François Treka. Salut François.
Salut.
Je t'ai découvert avec un article de blog qui s'intitule « Créer un PBN de 430 sites WordPress ». Si vous n'êtes pas familier avec le terme PBN, ça veut dire Private Blog Network, donc un réseau de sites. Et on s'en sert pour faire du lien, du netlinking, une discipline essentielle au SEO pour pousser le positionnement de ces pages. Ça donnait envie d'en savoir plus, forcément. Alors François, tu te présentes non pas comme un consultant SEO, mais comme un chef de chantier SEO, voire un industriel du web. On va en savoir plus dans un instant. Et j'ai donc découvert par cet article du contenu que tu produis qui est très carré, une approche pragmatique et précautionneuse. Et surtout, le plus important pour le SEO, c'est que tu testes d'abord et tu l'ouvres après, en gardant toujours un recul bien dosé sur les croyances collectives SEO. Alors, avant de creuser ensemble tous les sujets SEO que j'ai envie de voir avec toi, je voudrais commencer par te demander, quand as-tu entendu parler du framework AR la toute première fois?
Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, en fait, c'était dans une vidéo qui parlait donc de ce framework. Et ça m'avait vachement choqué parce que le conférencier, il avait poussé un cri.
Ah oui, c'est Dave McClure, c'est la vidéo de 2007, je m'en rappelle. Ouais.
Et du coup, ça m'avait interpellé, et puis du coup, j'avais regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était pragmatique, cohérent. Puis moi, ça me parlait parce que déjà, ma propre façon d'essayer de trouver des clients et de les garder, du coup, ça m'a permis un petit peu de modéliser ce que je faisais finalement.
Ok, très bien. Et alors du coup, ton activité, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment t'es arrivé à ton activité actuelle du coup?
La première chose, c'est que j'ai une formation de développeur en informatique. Ensuite, j'ai été développeur, je suis passé un petit peu par la case éditeur de jeux de société, parce que j'avais créé un jeu de société quand j'étais jeune, et puis j'ai cherché à le mettre en vente. J'en ai vendu, je suis retombé sur mes pattes au niveau business, mais voilà, je pouvais pas continuer, ça devait s'arrêter.
Comment il s'appelait ce jeu?
Il s'appelle Négos.
Ah, donc c'était donc tu avais déjà une vie entrepreneuriale et le thème du jeu c'était l'entrepreneuriat quoi.
Le commerce, c'était en fait c'est du marchandage entre les joueurs, mais une marchandise en vente et tous les autres peuvent faire des propositions, mais il n'y a pas un tour, il y a pas, c'est vraiment chacun fait ses propositions et s'adapte en fonction de ce que les autres proposent, donc très très libre. Comme j'avais pas envie de retourner dans l'informatique tout de suite, je me suis dit tiens, j'ai été directeur de centre de loisirs et ça m'avait bien plu, alors du coup je vais faire professeur des écoles. Mais j'étais pas du tout fait pour ça, du coup j'ai arrêté au bout de 4 mois. C'est dommage parce que j'avais le concours et tout. Du coup je suis retourné développeur en informatique et en parallèle je me suis mis à développer un site qui s'appelle SitePE, ça veut dire les sites des professeurs des écoles. C'est un site qui répertorie des ressources qui sont dédiées aux professeurs des écoles.
Et on est en quelle année là?
Ça c'est en 2010.
Okay.
Et c'est ça qui est rigolo dans cette histoire là, c'est qu'en fait je me mets à faire du SEO à fond. C'est-à-dire que j'optimise le texte de chacune de mes pages sans le savoir, je fais un cocon sémantique sans le savoir, je fais du netlinking parce que je demande tout simplement à ceux que j'ai répertoriés sur mon annuaire, je leur demande simplement de me faire des liens. Mais je le fais en m'imaginant que ces liens vont me ramener du trafic.
Oui, d'accord, ok.
Bêtement. Hein.
Tu vois ça juste comme une source de trafic et pas comme un moyen d'augmenter tes positions. Quoi.
Voilà, parce qu'en fait, j'imaginais même pas que Google, ça pouvait être aussi puissant. Et alors, je lance mon site, et en fait, il se passe rien. Et au bout de 2 semaines, où je suis complètement déprimé, parce qu'en fait, ça fait 6 mois que je rentre des liens comme un dingue, que je développe mon annuaire, et ça, il ne se passe rien, il y a 0 visiteur, et tout d'un coup, il y a 10 visiteurs par jour qui arrivent. Puis, une semaine plus tard, il y en a 25. Et ça fait des paliers comme ça. 10, 25, 35, 45. En fait, je capte que à chaque fois que je suis visible sur Google sur un mot-clé, il y a un certain nombre de visiteurs qui arrivent. Alors du coup, je m'intéresse au sujet, forcément. Et puis là, je tombe dans les SEO, je commence à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Puis alors, forcément, c'est très entraînant, parce qu'en plus, sans faire grand-chose, ça se met à exploser, parce qu'en fait, toutes mes pages vont être répertoriées par Google. Comme je fais des liens naturellement, ça monte très très vite. Au bout de 2 ans, j'étais à 400 000 visiteurs par mois. Et puis là, je rentre vraiment dans le SEO. Et 2 ans plus tard, je commence à proposer des prestations.
Ouais.
La charnière, c'est un petit peu 2014, parce qu'à cette période-là, je gagne un concours SEO sur le mot-clé trafic organique.
Bah bien.
Et donc, ça va déclencher des ventes, des grosses ventes pour moi, parce que c'est là que je vais avoir mes plus gros clients en fait, qui vont débarquer.
D'accord. Et qu'est-ce que tu avais fait comme technique pour gagner ce concours?
Alors il y avait 2 choses. Déjà, j'avais généré automatiquement un cocon sémantique. Ça, c'était une partie purement black hat. Donc avec du contenu généré. Et ça, c'était en arrière-plan. Donc c'était pas facile à voir. C'était plus réservé à Google. Et en fait, en avant-plan, j'avais mis un blog qui décrivait le concours. Et tous les jours, je mettais des petites news. Je décrivais le classement, qui est passé devant qui, qu'est-ce qui se passe, ah là là. Je raconte aussi un petit peu ma vie. Et en fait, ça plaisait bien aux participants qui ont commencé à suivre ça tous les jours. Ils se sont pas rendus compte, c'est que comme ils venaient sur mon site, ils contribuaient à améliorer mon référencement. Pas manipulation, mais un petit peu quand même.
D'accord, donc t'avais déjà une partie un peu content marketing pour ramener du trafic naturel et créer un petit peu d'animation pour que les pages soient mieux référencées. Quoi.
La partie content marketing, moi j'ai de la chance, c'est que j'aime bien communiquer sur ce que je fais. Alors du coup, je le fais sans effort. Et voilà, donc ça me coûte pas très cher. Tu vois, là par exemple, je réponds à ton interview, il y a plein de SEO qui veulent pas répondre aux interviews.
Oui, exact.
Donc en fait, c'est une chance que j'ai par rapport aux autres, c'est que très facilement, je vais communiquer sur mon activité, je vais partager des choses. Et du coup, ça m'aide beaucoup parce que je peux à la fois faire quelque chose qui me passionne, communiquer, et du coup, ça me donne du business. Donc, c'est formidable.
Donc du coup, à ce moment-là, après le concours, tu es officiellement consultant SEO.
Voilà, parce que j'ai des clients auxquels je donne des conseils et puis je fais des prestations personnalisées.
Et tu te spécialises sur quoi à ce moment-là?
Là, je commence à me spécialiser plutôt vers le contenu. Donc proposer des pages optimisées.
D'accord.
Assez rapidement, au bout d'un ou 2 ans, je commence à proposer un premier PBN avec dedans une vingtaine de sites.
Ok.
C'est rigolo parce que du coup, à 3, on a mis 4 mois à sortir 20 sites. Et aujourd'hui, ça me fait rigoler parce qu'en fait, pour sortir 20 sites, déjà, je suis tout seul et en gros, il me faut 15 minutes. Donc, c'est ce décalage-là qui est rigolo. C'est de me rappeler de cette période-là qui n'était jamais qu'il y a 5 ans en fait. Et de voir à quel point j'ai réussi à optimiser. Et en plus, les nouveaux sites sont plus beaux et ils sont mieux écrits.
Écoute, tu me fais une transition parfaite parce que tu as industrialisé le truc. Et aujourd'hui, du coup, tu n'es plus consultant SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, c'est quoi industriel web?
Alors, un industriel web, c'est quelqu'un qui va être capable de produire en très grande quantité, par exemple des sites ou des pages web, et pour pas cher. Alors, et ça, c'est important de bien comprendre, c'est pas parce qu'on arrive à produire quelque chose en très grande quantité et à le faire pour pas cher que ça veut dire que c'est pas de la qualité. Mmh. Donc ça, c'est ce que j'arrive aujourd'hui à proposer à mes clients avec du PBN. C'est-à-dire que jusqu'alors, souvent, lorsqu'on proposait des PBN qui n'étaient pas chers, c'était des sites dont le contenu était généré automatiquement et dans lequel tout était crappé, quoi. Enfin, c'était pas beau. Et les contenus étaient vraiment nazes, enfin générés automatiquement, donc forcément ça pouvait pas être formidable. Tandis que là, maintenant, on a réussi à mettre en place des processus qui nous permettent de créer des sites web qui soient jolis à regarder parce qu'il y a des jolies images, et on a des rédacteurs qui réussissent à produire rapidement du contenu qui soit lisible. Ça apprend quand même un minimum de choses parce qu'il y a toujours une idée. Donc voilà, on arrive quand même à faire des choses qui soient quand même intéressantes pour les internautes malgré tout.
Ok, donc le corps de ton activité, c'est cette partie industrialisation.
Voilà. Et aussi, il y a une méthode pour industrialiser, donc c'est une méthode maison. Donc je l'ai nommée la méthode bulldozer. Et donc, comme son nom l'indique, qui va permettre d'avoir énormément de force pour produire beaucoup de choses assez rapidement.
Et il y a combien d'étapes dans la méthode de bulldozer ?
Enfin, il y a trois grandes étapes. Donc c'est le regroupement des tâches. L'étape suivante, c'est l'automatisation.
Ouais.
Et ensuite, ce qui n'est pas automatisable, donc typiquement rédiger un texte.
D'accord, c'est délégué.
C'est délégué.
Ok, d'accord, je vois. Alors, sur ton blog, tu te présentes quand même comme le plus white hat de tous les black hat, ce qui sont des termes SEO. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer c'est quoi ces deux termes et c'est quoi la différence entre les deux? Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre white hat et black hat?
Alors, oui, il y a une différence. Moi, je considère que dans le terme black hat, il y a deux notions qui sont différentes. Tu as la notion... on respecte pas les règles. Donc ça, c'est une chose. Il y a Google qui a dicté des règles pour les sites, pour être positionné sur son site, qui sont on ne fait pas des liens artificiels, on ne fait pas du contenu généré automatiquement. Enfin, voilà, on essaie d'éviter d'utiliser des techniques qui sont juste des techniques qui servent à rouler le moteur. Donc ça, on n'a pas le droit. Quand on utilise ça, on est considéré black hat. Ça, c'est le non-respect des règles. Alors, après, il y a une barrière.
Et toi, ta barrière, c'est quoi alors?
Alors, au niveau du respect des règles de Google, bah moi, j'ai pas de barrière, j'en fous, en fait.
D'accord.
C'est leur problème, à dire, s'ils savent pas gérer le black hat, et bah c'est pas de ma faute. Bon. Et après, il y a la deuxième partie du black hat. Là, c'est le respect des personnes. Et moi, je trouve que c'est important, cette histoire-là, de respecter les internautes, parce que c'est pas tout de faire n'importe quoi avec un moteur, ça, c'est une chose. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi avec les gens. Et si on présente aux gens du contenu généré automatiquement, bah forcément, ça va être nul. Dire, et moi, quand je vois ça, ça m'énerve. Quand je lis un article entier et que finalement, il était rempli avec du vide, juste pour faire plaisir à Google, bon, bah, voilà, ça m'énerve. Donc, il faut quand même, les gens qu'on arrive à amener via Google sur notre site, eh ben, je pense quand même qu'il faut qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils trouvent sur la page. Ça me semble important. D'autant plus que ça fait partie des critères de ranking. Donc, il vaut mieux que ça fonctionne. Et cette notion-là de respect, justement, la plupart des gens qui sont dans le black hat, comme ils ne respectent pas les règles, ben, ils ne respectent pas non plus les gens. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Donc, c'est là qu'elle se fait la grosse différence.
D'accord. Bah, du coup, je vois de vraies similitudes, finalement, entre le growth hacking, et, qui est un peu voilà, l'origine un peu pirate, et le SEO, pour moi. Tu as un peu l'idée de, voilà, déjà de tester et voir ce qui se passe après, mais tu as aussi cette limite un peu morale que chacun se fixe, plus ou moins. Et d'ailleurs, quand je t'avais parlé de growth, tu avais tout de suite une image du growth hacking qui était un peu négative, justement parce que tu devais l'associer à cette limite un peu black hat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'était pour toi le growth avant que je t'en parle du coup?
Bah, pour moi, le growth hacking, c'était associé à tout ce qui était les pubs pour les régimes... tous les trucs putaclic, où finalement il n'y avait rien derrière, où visiblement on prenait les gens pour des cons et on espérait qu'ils étaient suffisamment cons pour tomber dans les panneaux qu'on leur mettait. Voilà. En fait, là, il y a beaucoup de black hat qui ont participé au concours. Quand ça commençait à être plus compliqué de faire du black hat sur Google, pour des tas de raisons, qui commençaient à accorder moins facilement des bonnes positions, qui a commencé à avoir plus de concurrence aussi, des grosses boîtes qui s'y sont mis vraiment au SEO. Eh ben, en fait, il y a beaucoup de ces black hat qui ne respectaient pas les gens qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux à faire du growth hacking.
Okay.
Et en fait, eh ben, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient en SEO, ben, ils ont continué à le faire sur les réseaux sociaux. Forcément, pour moi, c'était associé parce qu'après, ils étaient passés directement de consultants à growth hackers.
Ok, donc dans le milieu du SEO, les black hat les plus crades, on va dire, ont switché vers le growth hacking, en fait. C'est ça que tu dis, quoi, c'est ça?
Bah, y en a un paquet qui était passé sur les réseaux sociaux assez rapidement, quand ça a commencé vraiment à exploser, Facebook, surtout.
Ok. Et si on s'attaquait un petit peu à quelques croyances SEO qui circulent, qui, selon toi, sont plutôt infondées, voire complètement bidons. Est-ce que tu as en tête comme ça quelques idées qui circulent sur des façons de faire, des pratiques qui en vrai sont complètement fausses?
Bah, y en a une qui est assez redondante, c'est le fait que le contenu dupliqué interne ne permet pas aux pages de ranker, enfin d'être positionnées.
Okay.
Parce que la théorie officielle de Google, hein, c'est s'il y a par exemple 5 pages strictement similaires sur un site, alors ça, c'est pas forcément volontaire, hein, ça, c'est pas du black hat, ça peut être juste que bah, voilà, il y a un tube de colle jaune, un tube de colle vert, un tube de colle bleu, et en fait c'est la même description pour les trois. Il y a juste le nom de la couleur qui change. Ces trois pages-là sont strictement similaires du point de vue de Google. Et donc, il n'y en a qu'une seule qui est censée être positionnée, qui est censée être prise en compte par Google. Bon, bah ça, c'est pas vrai. Là, typiquement, on peut faire 100 000 pages pareilles. La plupart seront indexées, positionnées, et puis accueilleront du trafic.
Donc, il n'y aura pas de pénalité. Parce que moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est que le duplicate content pénalise le site.
Alors c'est pas une pénalité en fait, c'est plutôt le fait que théoriquement les pages sont pas prises en compte. Mais il y a un problème avec le duplicate content, c'est que, tiens un exemple tout bête, je suis sur une page de catégorie de produits, voilà, je cherche un micro. Voilà. Donc j'arrive sur un e-commerce qui propose des micros, et je vois une liste de 10 micros devant moi. Bon, je veux les trier par ordre de prix, donc je clique sur la flèche du ordre de prix, et en fait... Dans l'URL, vous ne faites peut-être pas attention, mais il y a un petit paramètre qui s'est ajouté qui est ordre égale prix croissant. Les deux pages, la page d'origine et la page triée par ordre croissant, d'un point de vue algorithmique, elles sont similaires. Ouais. C'est exactement les mêmes produits, ils sont juste dans un ordre différent. Et pourtant, Google va considérer que c'est deux pages différentes. Mais à aucun moment, vous avez fait du black hat. Vous avez juste développé avec vos pieds. Donc Google ne peut pas pénaliser ça. Il ne va pas pénaliser tous les mecs qui développent avec leurs pieds, parce que sinon, là, il n'a pas fini, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de web, enfin, du moins avec Google. Donc, ils ne peuvent pas pénaliser ça.
D'accord, donc se fatiguer à faire un lien canonical, c'est pas nécessaire, c'est ça que tu dis.
Il vaut mieux le faire, si on peut le faire facilement, il faut le faire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai testé, plus que testé d'ailleurs, appliqué à de très nombreuses reprises avec succès, c'est que quand on a la même page des milliers de fois, et ben, la plupart sont indexées et elles sont bien visibles sur Google.
Ok. Et le duplicate content avec d'autres sites, ça donne quoi?
Bah ça, j'ai pas testé par contre. À mon avis, dans ce cas-là, il y a bien un problème de paternité. Et d'ailleurs, justement, il y a une technique Black Hat qui est basée sur ça. Et c'est là qu'on voit que ça fonctionne en fait. Il y a une technique Black Hat qui consiste à copier le contenu de votre concurrent. On va acheter un domaine expiré, donc un site qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire, mais qui a eu énormément de liens naturels. Donc typiquement, ça va être un site politique, un peu orienté politique. Et là, du coup, il y a plein de sites, d'autres sites de blogs un petit peu orientés politiques aussi qui vont avoir fait des liens, enfin voilà, des gens actifs. Donc du coup, en termes d'autorité, leur site, ce nom de domaine-là, reçoit beaucoup de liens et Google le considère comme un site important. Pour faire du négative SEO, c'est-à-dire pour plomber le concurrent, il va copier-coller le site et le mettre sur ce site, sur cet expiré, sur ce nom de domaine qui a beaucoup d'autorité. Et là, c'est Google, il va considérer que le contenu d'origine, eh ben, c'est celui qui est sur le site qui est plus puissant. Et ça va faire tomber l'autre.
C'est l'autorité et pas l'ancienneté du coup.
Bah ça dépend en fait. Alors souvent ce qui est fait sur le NSEO, c'est que les mecs tous les jours, ils envoient des robots scanner le site du concurrent et copier les pages, les nouvelles pages. Et là ça va faire mal. Pendant le concours smartphone pliable, moi j'avais eu le coup, un mec qui me piquait tous mes contenus. Et c'était insupportable. Moi, forcément ça va contre mes... Ça va con.
Les principes, voilà.
Et le mec me piquait ça, et ça me gonflait, et il le mettait sur ce site qui était tellement puissant. C'est pour ça que je connais bien la technique.
Ok, d'accord, je comprends. Alors, ce framework AR commence par le A de acquisition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va évoquer le plus dans cette interview, c'est l'acquisition, parce que, évidemment, le SEO intervient principalement à cette étape, même si j'aurais quelques questions un peu sur les autres étapes. Alors, le SEO... C'est donc le truc magique qui capte du trafic sur une intention tapée dans Google. Question simple de beginner que tu as dû avoir des tonnes de fois avec tes clients. C'est quoi le ROI du SEO?
Alors, je vais donner la réponse des SEO. Hein. Ça dépend. Alors, il faut savoir une chose. Hein, si vous avez un consultant en référencement qui vous dit... pour 30 000 euros, vous aurez tant de positions, vous aurez tant de visiteurs, vous aurez finalement tant de chiffre d'affaires. Donc là, fuyez, parce qu'en fait, ce SEO n'a pas une boule de cristal pour savoir comment va évoluer Google dans les quelques mois à venir. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un qui est trop sûr de lui, et c'est pas bon de travailler avec des gens comme ça, soit vous êtes quelqu'un qui essaie de vous piquer 30 000 euros, ce qui est pas bon non plus. Donc, théoriquement, un SEO, c'est très humble. C'est censé dire, bon, on sait ce qui marche, on a testé des choses, ça fonctionne. Mais on sait aussi que dans certaines niches, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc des fois, on pense partir sur une bonne idée, mais finalement, ça ne prend pas pour telle ou telle raison. Et malheureusement, le seul moyen de l'apprendre, c'est de le tester. Normalement, un bon SEO est censé dire, est-ce que vous acceptez qu'on fasse ce test avec vos sous en grandeur réelle?
Ouais.
Et là, c'est vraiment le respect du client. Là, il sait vers quoi il se dirige. Il n'y aura pas de déception.
Donc finalement, c'est une bonne question. C'est quoi le ROI du SEO? Parce que ça dépendra de la réponse. Si la personne répond en toute honnêteté que... il n'y a aucun ROI garanti, ben, finalement c'était la bonne question à poser. Quoi.
Bah oui, c'est ça. Mais moi j'ai perdu 95% de mes prospects en ayant ce genre de discours, hein, parce que c'est ce que je dis aux gens qui me contactent.
Et alors, autre question, combien de temps pour ranker sur une page?
Alors, bah, ça va dépendre du mot-clé. Surtout, si tu veux être visible sur un petit mot-clé, je sais pas moi, taille d'une feuille de chêne. Bon, ça va pas être compliqué, je pense, de réussir à être dans le top 10 sur ce genre de mots-clés. Ça va être facile même. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait une page spécifique sur la taille des feuilles de chêne. Après, si tu veux être premier sur, je ne sais pas moi, micro, acheter micro. Bon, là par contre, il va falloir compter une bonne année, je pense, pour commencer à avoir vraiment des résultats sur le mot-clé micro.
Et rachat de crédit? Rachat de crédit, en combien de temps?
Bah, c'est pareil, mais... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est, évidemment, c'est pas figé. Hein. Pendant que nous, on bosse sur le SEO, les concurrents le font aussi. Donc, c'est la guerre. Les résultats de recherche deviennent de plus en plus difficiles au fil du temps.
Et qu'est-ce que tu penses de la diversité des contenus proposés? C'est-à-dire qu'on va parler du mot-clé micro. Si tous les résultats sont des e-commerce, est-ce qu'il y a du coup une opportunité pour un contenu qui ne serait pas un e-commerce et qui apporterait une diversité de résultats, et Google du coup serait friand de ce genre de truc parce qu'il se dirait comme ça apporte une diversité de résultats aux gens qui tapent la requête, tu vois? Je sais pas, un truc très informatif sur l'histoire du micro ou ce genre de truc.
Alors ça, à un moment donné, on l'avait pas mal avec, par exemple sur le mot-clé micro, t'avais 9 e-commerce et puis un Wikipédia.
Ouais.
Et donc, un challenge, ça pouvait être de dire, on va dégommer Wikipédia et on va mettre notre page de micro à la place.
Ouais.
Costaud, hein, quand même. Mais bon, voilà, c'était des challenges qui existaient, ça je le sais.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a la concurrence, mais il y a aussi les types de contenus proposés. C'est pas un truc que tu, sur lequel tu es sensible de voir, voilà, pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme concurrence et vers quel type de page tu devrais aller.
Si, alors c'est extrêmement important, c'est sur les requêtes génériques. C'est là que ça va avoir une importance démentielle.
C'est quoi, ouais, que tu appelles une requête générique?
Alors une requête générique, c'est un seul mot-clé, par exemple football,
okay.
Fenêtre. Typiquement football. Quelqu'un tape football, qu'est-ce qu'il veut? Alors il y a plein de possibilités. Il peut avoir de l'actualité sur le football, il peut vouloir connaître l'histoire du football, il peut vouloir connaître la composition de son équipe nationale. Il peut savoir quand est-ce que commence le prochain match. Est-ce qu'il n'y a pas un match en direct à regarder? Donc sur ce genre de mots-clés, c'est là qu'on voit comment Google il gère l'attention de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'il va falloir lui donner?
Quand il n'a pas encore compris exactement ce que voulait l'internaute. Quoi.
Voilà.
Mais alors du coup, pour revenir à la question du temps pour ranker, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te pose cette question? Quel ordre d'idées tu peux lui donner pour ranker sur une page? Mais on va dire dans le top 5.
Moi je dirais, sur un mot-clé générique, voilà, il faut compter au minimum un an. Attends, je vais repartir sur ma réponse de SEO normal. Mm-hmm. Ça dépend. Est-ce qu'on part sur un site neuf ou sur un site qui a déjà de l'ancienneté sur la thématique et qui est déjà ranké sur le mot-clé? C'est complètement différent. Donc, ça dépend. N'oubliez jamais cette réponse-là. Votre SEO doit répondre « ça dépend ».
Ok, très bien. Je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il n'y a pas, du coup, de vérité absolue dans le SEO, puisque ça dépend, comme tu dis.
Exactement.
Personne ne sait vraiment ce qui se passe non plus dans l'algo. Hein. Ça reste de la rétro-ingénierie. Hein. En fait, on a beau savoir à peu près ce qu'il faut faire, personne ne sait exactement. on peut juste parler de ce qu'on a testé, ce qui a marché pour nous, en sachant qu'il est tout à fait possible qu'une stratégie qui a marché ne puisse pas être répliquée à l'identique et ne fonctionne pas exactement comme elle a déjà fonctionné. On distingue le SEO on-site et le SEO off-site, c'est-à-dire les optimisations possibles sur le site et celles qui sont possibles en dehors du site. Voilà, c'est les deux grandes familles d'optimisation SEO. Je te propose de commencer par le SEO on-site. Peux-tu nous donner quels sont pour toi les critères d'optimisation d'une page que tu soignes particulièrement et qui te semblent les plus importantes?
Ça va être le titre de la page, donc la balise title. Ça, il faut absolument qu'elle soit dédiée au mot-clé qui est visé.
Ouais.
Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est que si on vise un mot-clé qui est important, il faut lui dédier une page de son site. Mais c'est ça le plus important. Je vise un mot-clé, je fais une page dédiée à ce mot-clé. Il faut que le contenu de la page soit concentré au maximum sur un mot-clé pour qu'elle soit bien digérée par Google, qu'il ait bien envie de la mettre devant le nez des internautes lorsqu'ils tapent le mot-clé. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est dans le on-site en fait, c'est cette notion de un mot-clé égale une page. Et après il y a tout le reste qui va en découler naturellement, c'est-à-dire que le titre de la page doit être en cohérence avec le mot-clé, le contenu doit être cohérent avec ce mot-clé. Et s'imaginer quels vont être les besoins de l'internaute quand il tape ce mot-clé sur Google.
Est-ce que tu suggères de faire un travail d'optimisation sémantique du texte?
Oui, ça c'est indispensable. Enfin, ça me paraît indispensable. Mmh. De toute façon, on le voit bien, hein, y a des outils qui permettent d'analyser un petit peu le texte. Un rédacteur innocent rédige un texte sur la TV intracommunautaire, on passe son texte dans l'outil, mais il a 0 sur 20 parce qu'un moteur de recherche ne peut pas comprendre ce qu'il a raconté. Pourtant, ça part de la TV intracommunautaire. Quelqu'un qui lit son truc dit « Oui, il est bien ton texte, il est clair ».
Donc il y a des outils où tu mets ton mot-clé et il va te donner toute la nuée des autres mots-clés dans le même champ sémantique qu'il faut que tu essaies de mettre dans le texte, c'est ça?
Ah oui, mais ça il y en a plusieurs.
Et tu peux nous en donner d'ailleurs des outils comme ça?
Oui, bien sûr. Donc tu as 1.fr, tu as YourTextGuru, tu as Alize qui a l'avantage, enfin je crois qu'il est toujours gratuit, alors il doit y avoir une partie payante maintenant, mais ça donnait déjà quelques pistes.
Ok, donc une requête égale une page.
Voilà.
Et on travaille du coup de la qualité et un champ sémantique cohérent qui va avec la requête.
C'est ça.
Ok. Et d'autres choses que tu soignes particulièrement?
Après, toujours dans le on-site, ça va être les liens entre les différentes pages. C'est-à-dire que si ma page parle de la TVA, il ne faut surtout pas que je fasse un lien avec une page du même site hein, qui va parler des assiettes. Ça n'aurait aucun sens, ça va brouiller le message, parce que Google ne fait pas que lire le contenu de la page, il va aussi regarder qu'est-ce qui gravite au niveau des liens autour de cette page. Donc si tu n'es pas cohérent au niveau global de ton site, et ben Google ne va pas comprendre, ça va lui brouiller le message, et il va peut-être se dire « je pense que ça part de la TVA, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il fait des pages vers les assiettes ». Donc, je ne sais pas si je vais le présenter à mon internaute.
Tu soignes donc le leaking interne. Tu sais que je suis un peu fan du cocon sémantique. On en a parlé. C'est quoi ton sujet, ton avis là-dessus sur le cocon sémantique?
Écoute, moi j'ai vu des cocons qui marchaient très bien. Du coup là, en fait, je suis en train de passer une formation justement à ce sujet-là. Donc, ça m'a tellement intéressé que je vais y aller à fond. Parce que je pratiquais déjà en fait le cocon sémantique, mais pas aussi loin que mon formateur, qui est Baptiste Giraud, est en train de le faire. Donc là, je suis en train d'apprendre cette technique pour aller jusqu'au bout du truc et voir ce qu'on peut en tirer. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai vu des résultats assez hallucinants et c'était impressionnant.
Alors, Du coup, j'ai une question, parce que pour toi, c'est quand même très important, l'expérience utilisateur. Quelqu'un arrive sur le site, il faut qu'il ait une super expérience et que ça réponde à tous ses besoins, que son expérience soit facilitée. Avec le cocon sémantique, du coup, comme tu disais, cocon sémantique ou une autre méthode de leaking interne, on s'arrange à faire des liens entre les pages qui sont dans le même champ sémantique et qui parlent à peu près des sujets plus ou moins proches ou connexes. Des fois, il y a des liens qui pourraient être utiles pour l'expérience utilisateur, mais qui n'ont rien à voir. La page de destination n'a rien à voir avec le champ sémantique, tu vois. Voilà. Comment tu gères cet arbitrage-là entre l'expérience utilisateur et le linking interne, du coup ?
Déjà, si tu es vraiment sur un fonctionnement, une page, un mot-clé, théoriquement, tu ne devrais pas avoir de lien à faire vers une page qui n'a rien à voir. Enfin, je vois mal dans quelle situation ça pourrait arriver.
Moi, ça m'est déjà arrivé justement d'avoir à faire des liens comme ça. Tu pourrais avoir à linker vers un outil. C'est un outil qui est dédié à autre chose, mais qui aide, je dis n'importe quoi, hein, mais qui aide à faire un truc qui est utile objectivement et qui pourrait être mentionné dans l'article, quoi, tu vois, par exemple. Et je me suis dit, tant pis, je vais casser l'étanchéité, tu vois. Je me dis, tant pis, c'est utile pour l'utilisateur, donc je vais le mettre quand même.
Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une page intermédiaire. Je vais faire une page qui est dédiée à cet outil et qui va expliquer, dans ce cas précis, comment on l'utilise.
Ok.
Et là, tu peux faire ton lien et c'est normal.
Ok, je vois. Autre question. Là, pour le coup, c'est un peu plus Black Hat, mais Black Hat qui pourrait peut-être rentrer dans tes prérogatives, je ne sais pas. Il y a du cloaking de liens. C'est-à-dire que, du coup, tu auras ton lien qui sera effectif pour l'utilisateur. Et pour Google, il n'y a pas de lien, en fait. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait ou que tu as des retours d'expérience dessus ?
Alors, au niveau de la moralité, moi, je vois aucun problème, parce qu'il n'y a personne qui est floué à part le moteur, mais bon, ça, c'est son problème. Moi, c'est quelque chose que je sais faire, hein, il n'y a pas de problème, c'est un petit bout de technique, mais je ne le fais pas parce que je considère que le gain, il n'est pas extraordinaire, et c'est le genre de choses qui peuvent facilement bugger. Et en fait, à maintenir, finalement, le coût, je pense qu'il est supérieur au gain.
D'accord.
Donc, je pense que le gain, il n'est pas phénoménal, et puis ça va te causer plus de problèmes à long terme que de bénéfices. Ça peut être que, je sais pas, moi, les navigateurs évoluent, donc en fait, la façon de détecter que c'est Google ou que c'est l'utilisateur évolue aussi, mais on ne fait pas la mise à jour, et on ne s'en rend pas compte forcément, et puis au bout de 2 ans, tu te dis, il est où mon lien ? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis finalement, il ne s'est rien passé pendant 2 ans, tu as juste eu un trou pour tout le monde, et puis ton truc est pourri.
D'accord.
Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que est-ce que ça vaut le coup de faire des petits hacks comme ça qui sont vraiment millimétrés, sachant que ça peut causer finalement des problèmes plus importants ?
Ouais, je vois.
C'est ça qu'il faut mesurer.
Et alors du coup, cloaking, peut-être, on peut peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le terme, tu peux nous dire un peu ce que c'est que le cloaking ?
Alors le cloaking, c'est... En fait, il y a deux grands types de visiteurs sur Internet. Il y a les humains, donc vous et moi et tous les internautes, et il y a les robots, donc Google, le robot de Bing, enfin voilà, il y a des tonnes de robots qui circulent sur Internet et qui regardent comment sont faites les pages. Évidemment, les deux types de visiteurs ne voient pas du tout les mêmes choses de la même façon. Nous, quand on arrive sur un site, on voit du texte avec des images, c'est joliment fait. Tandis que les robots, eux, quand ils arrivent sur un site, ils voient du code HTML, c'est-à-dire quelque chose qui est très difficilement lisible par les humains, qui n'est pas du tout agréable à lire et dans lequel il n'y a pas d'image. Admettons, il y a quelque chose que j'ai envie de montrer au robot, parce que j'ai fait un texte généré automatiquement, bourré de mots-clés. Au niveau sémantique, c'est parfait, mais sauf que ça n'a aucun sens. Donc ça, j'ai envie de le montrer au robot. Il faut qu'il le voie pour qu'il comprenne bien de quoi parle ma page. Par contre, aux humains, j'ai pas envie de leur montrer ça, parce que c'est pas lisible, en fait, ça n'a pas de sens. Moi, l'humain, je veux juste qu'il clique sur le bouton « Acheter ». Mais pour arriver sur ce bouton hacher, il faut d'abord que cette page soit visible sur Google. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un mécanisme. Lorsque c'est un robot qui regarde la page, eh bien, on va afficher le texte avec qui est généré automatiquement. Et lorsque lorsque c'est un humain qui visite la page, eh bien, pour lui, ça sera caché. Et du coup, on a deux versions différentes, et qui va permettre d'optimiser la visibilité de la page sur le mot-clé sans dégrader l'expérience utilisateur. Donc quand je dis ça comme ça, tu as envie de dire mais c'est formidable, il faut le faire. Sauf que évidemment Google lui n'apprécie pas du tout ce jeu, qu'on se moque de lui, parce que c'est rien d'autre que ça. Hein. Donc un coup de temps en temps, il va regarder comment un humain voit la page, il va comparer avec la version qu'on lui sert à manger. Et il va voir qu'il y a une grosse différence et qu'on est en train de se moquer de lui. Et à ce moment-là, il y a un risque de pénalité.
Et alors, qu'est-ce que tu penses du cloaking de lien ? Parce qu'il y avait le cloaking de contenu et le cloaking juste de cacher un lien. Pour un super menu, par exemple, sur un site e-commerce, tu vois, les super menus ou les trucs, ils sont partout dans le header. Et du coup, ils font des liens partout.
Mais de toute façon, le super menu, déjà, à la base, c'est nul. Donc, je ne sais même pas pourquoi on propose ça aux gens. C'est ridicule.
Alors, les e-commerce, ils vont te dire, bah si, parce que comme ça, ils peuvent aller de catégorie en catégorie qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sémantiquement. Et ça facilite le commerce. Voilà. Ils vont te dire que c'est mieux pour l'expérience utilisateur. Tu vois.
Bah, après, bon, moi, ça, j'en suis pas convaincu. Mais en fait, ce que je pense ou ce qu'ils pensent, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire des tests AB pour vérifier ce point. Si on voit que c'est bien, okay, en effet, ils utilisent le super menu pour naviguer de truc en truc. C'est formidable. Dans ce cas-là, on va garder le super menu et on va peut-être chercher à le cloquer, oui, pour faciliter le netlinking interne. Mais bon, si en effet, il ne sert à rien, bah, il vaut mieux éliminer le gros menu qui est là juste pour rassurer les directeurs.
Ouais.
Mais voilà, là, il faut faire un test pour le vérifier. Parce que sinon, on peut parler en l'air pendant 10 ans. Non, c'est bien. Non, si, c'est pas bien. Bah, bien. Testons. Alors du coup, pour revenir à ta question, si le méga menu est justifié de par l'expérience utilisateur, alors oui, peut-être que ça vaudra le coup de cloquer certains liens pour que ça soit plus logique. Alors après, il faut savoir que Google, lui, il est capable de déterminer quelle est la partie fixe de ton site, c'est-à-dire celle qu'on retrouvera sur toutes les pages du site, de la partie différente, qui est à chaque fois différente dans le site. Et donc, il est probable que le super menu, les liens, aient une puissance beaucoup plus faible que les liens qui sont dans le contenu qui changent sur toutes les pages.
D'accord.
Donc, c'est peut-être pas si grave, en fait.
Ok, d'accord. Très bien. Alors, du coup, en parlant de l'expérience utilisateur, qu'est-ce que tu penses de ce terme SXO ?
Alors, la Search Experience Optimization.
Exactement.
Bon, mon accent est horrible. Il y a 5-6 ans, quand c'était encore le Black Hat qui était roi sur le SEO, il y avait les White Hat qui essayaient de vendre ça en disant que c'était l'avenir. Donc il y a 5 ans, c'était l'avenir, et puis je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est le présent. Voilà, vous avez raison, encore une fois. Et donc, je pense que oui, il y a Google qui va de plus en plus tenir compte de l'expérience utilisateur, et donc il va réussir à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les sites web, et donc du coup, l'expérience utilisateur va devenir capitale. C'est les sites qui vont être agréables pour les utilisateurs vont être partagés et après c'est la boule de neige.
Et alors du coup tu vois, toi je sais que ce que tu préconises c'est de donner une réponse le plus rapidement possible après une requête sur une page à l'utilisateur. Souvent on entend parler que c'est important de faire un long texte et ça doit t'arriver comme moi de tomber sur des pages où on te met d'abord des tartines et tu scrolles pour essayer de trouver où est la réponse, voilà. Par exemple. Donc forcément niveau expérience utilisateur c'est un peu chiant. Mais du coup c'est parce que c'est des gens qui se disent bah, il faut respecter des règles SEO de longueur de texte, de ceci, de cela. Et d'ailleurs tu me vois venir, tu as récemment fait un article sur la longueur des textes préconisé. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience que tu as fait sur la longueur du texte qu'il faut sur une page et comment tu es arrivé à essayer de comprendre ça?
Alors, donc, on a fait un test sur la longueur du texte. Donc, on s'est demandé, donc c'est avec Baptiste Giraud qu'on a fait ce test-là, on s'est demandé, est-ce que pour Google, il vaut mieux avoir un texte qui fait 500 mots, 1500 mots ou 3000 mots? Bon, en fait, c'est simple. On a créé trois sites différents. Donc, il y a un site qui s'appelle longueurcontenu500.fr, l'autre longueurcontenu1500.fr et le dernier longueurcontenu3000.fr. Donc, c'est des sites qui font tous une page. C'est des clones, donc ils sont strictement pareils. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais en fait, faire trois sites qui sont strictement pareils, eh ben, c'est pas si simple. Et donc, le texte de chaque site est différent et à une longueur différente. Et du coup, on va regarder au fil du temps bah, quel est le site qui passe devant les autres. Donc actuellement, c'est le site de 3000 mots qui est mieux positionné, mais attention, le site de 500 mots prend régulièrement des positions zéro, donc c'est-à-dire la réponse de Google tout en haut. Là.
Ouais.
Alors du coup, là, c'est un petit peu le mystère. Donc, on est en train de regarder un peu ce qui se passe, c'est intéressant. Alors ça a été difficile de bien faire en sorte que ça soit bien la longueur du contenu qui soit, enfin le nombre de mots, qui soit le facteur différenciant entre chaque site. Parce que ce qui pourrait purer arriver, c'est que tu as un site de 3000 mots, mais qui ne soit pas compris par Google au niveau de la sémantique.
Ouais.
On en revient à notre problème de tout à l'heure. Si Google ne comprend pas qu'on est en train de parler, donc là c'est des sites qui parlent de la longueur du contenu, bêtement. Donc si Google ne comprend pas que ça parle de la longueur du contenu, ce site de 3000 mots ne sera jamais positionné. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de mots, c'est parce qu'il n'est pas compris. Donc là du coup il y a eu un travail de fait par Baptiste pour vérifier que les textes étaient compris de la même façon par Google. Et que du coup, ce facteur-là n'allait pas influencer sur le fait que ça soit, qu'il soit positionné différemment. Alors du coup, on a eu le temps d'étudier un petit peu la question sur la longueur du contenu, parce qu'on a regardé un petit peu les études qui avaient été faites pour justement mettre du contenu aux utilisateurs. Et donc toutes les études jusqu'à aujourd'hui préconisent de mettre 2000 mots dans un texte pour qu'il soit optimisé pour Google. Donc a priori, voilà, à partir de 2000 mots, t'es bien. Je vais te donner un petit peu mon prochain article de blog qui parle justement de ça. C'est parce que les premières tours qu'on a eues, c'est « Ah ouais, mais 2000 mots, vous vous rendez pas compte ? Moi, je lis pas 2000 mots, c'est trop. » Et c'est vrai. C'est vrai, 2000 mots, même moi qui suis un lecteur, je lis une dizaine d'articles minimum par jour.
Ouais.
Donc voilà, je suis quand même lecteur solide, quoi. 2000 mots, il me faut 10 minutes pour les lire, quoi. Donc sur le site de 3000 mots, la première phrase, ce qui est en gras et en plus gros, c'est écrit « Vous devez rédiger au moins 2000 mots. » Point. Voilà, ça c'est écrit en gros, c'est la première chose que les gens y voient. Et donc les gens qui vont juste taper quelle est la longueur du contenu idéal pour Google et qui vont arriver sur notre site, ils vont voir la grosse réponse « Vous devez rédiger au moins 2000 mots. » Hop, terminé. C'est bon, ils peuvent partir, ils ont leur réponse. Après, s'ils ont envie de rentrer un peu plus dans le détail, eh bien, il y a tout l'article, 3000 mots, qui va leur expliquer pourquoi. Alors là, c'est pareil. Moi, je considère qu'il y a 4 vitesses de lecture sur un blog, sur un article de blog. Donc, tu as la réponse fixe, 3 secondes. Tu as 3 secondes pour faire capter l'idée à ton utilisateur. Il a tapé un mot-clé, une requête, il arrive sur le site, il voit la réponse, merci, au revoir, terminé. Après, tu as 30 secondes. Donc, pendant 30 secondes, tu vas avoir un plan, enfin, tu vas avoir les idées principales qui vont justifier de cette réponse, en 4 lignes, 5 lignes. Et là, s'il a besoin d'un petit peu d'arguments pour capter pourquoi, il va lire ces lignes et dire « Ah, ok, c'est bon, j'ai compris.
Okay. »
Après, tu as 3 minutes. Donc là, le lecteur va scanner l'ensemble de la page et on va lui mettre en gras les idées principales à lire pour qu'il comprenne le fil global.
Ok, le plan.
Et
quoi.
Après, tu as la lecture en 10 minutes où là, la personne va pouvoir rentrer dans chaque détail, on va lui expliquer chaque truc en profondeur. Et en fait, on va réussir à satisfaire tous les types d'internautes qui arrivent sur le site, parce que pour chacun de ces types, ils vont avoir un temps de lecture approprié à leurs besoins.
C'est super intéressant, ça. Mais alors du coup, t'as pas peur du coup des abandons de page ? T'as pas peur que ce soit pris comme un signal négatif par Google, que quelqu'un il trouve sa réponse, qu'il fasse partie du segment qui veut avoir la réponse tout de suite et qui s'en aille ?
Alors, justement, ce qui est catastrophique, c'est pas que quelqu'un arrive sur une page et s'en aille directement. Ça, au niveau de Google, en fait, ça veut simplement dire que peut-être qu'il a trouvé en 3 secondes sa réponse et qu'il a plus besoin de rester sur le site et qu'il s'en va. Ce qui compte surtout, c'est que la personne tape, par exemple, quelle est la longueur idéale d'un mot pour Google. Donc, il tombe sur un site d'un concurrent. Et puis là, il cherche, il galère, il trouve pas le chiffre bête qu'il cherche. C'est 2000, le mec, il a tapé ça. En fait, il cherche 2000, il cherche pas autre chose. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il trouve pas le nombre. Il va retourner sur Google, il va retaper quel est le nombre de longueur idéale, le nombre de mots idéal pour Google. Google va se dire, oula, attention, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait sur le site, le premier site que je lui proposais. Donc là, l'internaute va taper sur le deuxième lien, et il va tomber sur notre site, par exemple, et là, il va voir, en énorme, vous devez rédiger au moins 2000 mots. Ah, super ! Là, il ne va plus retourner sur Google pour taper la requête. C'est fini, il a trouvé son information.
En fait, il ne faut pas qu'il retourne dans la SERP pour cliquer sur un autre résultat, quoi.
C'est ça.
Okay.
Et là, Google, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? Il ne revient plus, il a trouvé ce qu'il cherche. Super, je peux le monter.
Ok, super. Transition parfaite, la SERP. Un des signaux pris en compte par Google, c'est le CTR, le taux de clic sur le résultat de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce taux de clic ? Moi, par exemple, je veux te dire, j'hésite pas à mettre des mots en majuscules. Je sais qu'il y a plein de SEO qui sont contre ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai testé, ça marche, donc je le fais. Est-ce que tu as d'autres trucs pour améliorer ce taux de clic ?
Bon, alors déjà, il faut bien travailler le titre de la page, parce que c'est ce qui apparaît théoriquement en premier sur la SERP. Donc, il faut mettre un titre un peu sexy. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut être dans l'équilibre, parce qu'il faut que le titre soit sexy, mais il faut aussi qu'il soit compréhensible par Google. Donc, en général, si on veut qu'il soit sexy, le mot-clé, c'est pas forcément ce qu'on veut mettre dedans. Donc, voilà, il faut toujours trouver cet équilibre, expérience utilisateur et référencement. Ensuite, on peut travailler sur la description pour... Alors, elle, c'est beaucoup plus facile de la rendre sexy parce que... donc, c'est les deux lignes qui apparaissent en dessous du titre.
Ouais, la méta-description. Ouais.
Celle-là, c'est beaucoup plus facile de la rendre sexy parce que théoriquement, elle n'est pas prise en compte par Google. Donc, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans pour avoir des punchlines un petit peu plus sympathiques. Alors, après, là, il y a tous les petits gadgets que Google s'amuse à mettre dans la SERP au fil des années. Hein. On peut... par exemple, si c'est un produit, ben, on peut renseigner sur la page... le nombre d'avis qu'il y a eu et puis le nombre d'étoiles.
Ouais.
Donc là, du coup, sur la page de Google, ça va afficher les étoiles. Donc du coup, on est plus visible.
Ouais.
On gagne des centimètres, des pixels sur la SERP, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette histoire de centimètres qui est assez
rigolote. Ne pas laisser de place à la concurrence, effectivement.
Voilà. Plutôt que de gagner des positions, on va essayer de prendre plus de place.
On peut gagner des pixels avec quoi d'autre aussi
T'as les fils d'Ariane aussi qui permettent de gagner des pixels.
Ça, c'est vrai qu'on n'y pense jamais et on a tendance à les enlever des sites, les fils d'Ariane, alors que ouais, y a ça qui fait gagner des pixels. Ouais.
Donc ça peut être intéressant. Et tout ça, c'est White Hat.
Ouais, ok, cool. Écoute, je te propose de passer au SEO off-site maintenant. Alors, ça consiste principalement à réfléchir aux meilleurs moyens de faire des liens vers votre site. Le netlinking en fait partie, évidemment. Et le lien, en fait, c'est ça, depuis l'origine, c'est le cœur de l'algo. Hein. C'est juste des pages entre elles qui sont liées, donc sans le lien, il n'y a plus vraiment d'algo. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas trop comment faire du netlinking, qualité exceptionnelle amène du lien naturel. Mais qualité exceptionnelle, lien naturel plus du netlinking, est-ce que ça ne va pas faire gagner encore plus de positions ?
Bien sûr. Là, parce qu'on va jouer avec l'algo, donc si on est assez fin, on va réussir à rouler Google et puis à lui faire croire qu'on fait du netlinking naturel et puis que ça fonctionne.
Et à quelle différence de résultat on peut s'attendre entre quelqu'un qui attend juste des liens naturels et quelqu'un qui complète avec du netlinking, du netlinking propre, j'entends.
Ça va dépendre de la qualité du netlinking qui est proposé par le prestataire. Si tu fais 1000 liens de spam sur des blogs qui de toute façon ne transmettent pas de confiance de la part de Google, tu vas avoir 1000 liens et puis tu bougeras pas. Par contre, si tu arrives à avoir un beau lien sur un énorme site, tu vas monter. Ça dépend.
Alors, du coup, c'est quoi, de manière générale, qu'il faut vérifier parce qu'on va parler à des différentes façons d'avoir un lien sur un site externe, mais quand on a la possibilité d'avoir un lien sur un site externe, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur ce site avant de mettre son backlink? C'est quoi les risques? C'est quoi les trucs à checker?
Il faut... vérifier déjà que le site il est dans la bonne thématique, c'est mieux. Uh-huh. Quitte à acheter un lien, autant l'acheter dans un site qui soit dans la bonne thématique. Il faut vérifier que ce soit un vrai site, c'est-à-dire que le contenu à la base il est destiné aux internautes et qu'il n'est pas destiné uniquement aux moteurs, parce qu'il y a des milliers de sites hein, qui existent, qui ont été créés que pour Google. C'est une prestation que je propose, donc ça existe. Donc sur ce site-là, peut-être que c'est moins intéressant d'avoir des liens, peut-être.
Mais c'est moins intéressant. Du coup, si je te demande un PBN, par exemple, et qu'avec mon PBN, il y a zéro trafic sur mes sites du PBN et que je m'en sers juste pour faire des liens, c'est risqué d'une manière ou d'une autre ?
C'est pas risqué, mais si le site de PBN est propre, c'est-à-dire qu'il, visiblement, c'est pas du texte généré automatiquement, que y a le minimum syndical qui a été respecté. Le seul risque que tu prennes, en fait, c'est d'acheter un lien qui ne sert à rien.
Oui, ouais, c'est ça. Pour toi, ce n'est pas forcément un critère qu'il y ait du trafic sur le site en question. Du trafic naturel, quoi.
Non. En fait, non, parce que des fois, on a des sites qui poussent qui vont pousser les sites, qui vont bien envoyer de l'autorité, alors qu'en fait, ils n'ont pas eu tout de trafic.
Mmh, okay.
Ils ont juste des gros liens derrière eux qui font que ils transmettent cette confiance.
Et si le site est pénalisé par Google, qu'est-ce que tu risques à mettre un backlink dessus ?
Aujourd'hui, la théorie, c'est que il n'y a plus de transmission de pénalité, mais le lien ne va rien envoyer. Ça, c'est la théorie officielle de Google. En fait, c'était trop dangereux, c'était trop facile au niveau du négative SEO.
Négative SEO, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, finalement, ça revient au même que tous les risques de netlinking, c'est faire du netlinking qui ne rapporte rien. C'est ça le pire risque que tu puisses avoir. Quoi.
Écoute, tu peux avoir les pénalités manuelles. Parce que là, ce dont on parlait, c'était les pénalités algorithmiques.
Ouais.
Automatiques. Ouais. Mais il y a eu des pénalités encore récemment manuelles. Parce qu'il y avait des sites qui s'amusaient à faire des échanges de liens. C'est-à-dire ils ont un site généraliste, et ils proposent à des vrais sites de faire un lien vers leur site généraliste, et en échange, ils feront un autre lien. Et en fait, ça fonctionne, hein, les échanges, hein, parce que ce site-là a eu des millions de visiteurs issus de Google, donc c'était assez incroyable. Moi, ça me bluffe, les gens qui font des trucs comme ça, et tout le monde dit que c'est terminé, les échanges, ça marche plus, puis les mecs, ils y vont à fond, et puis en fait, voilà, ils prennent des positions, quoi. Mais par contre, ils se sont fait pilonner, quoi. Un jour, la fête, elle était finie, et trafic divisé par 10, quoi. Donc,
c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les a dénoncés, c'est passé quoi exactement?
Alors, soit il y a une dénonciation, soit ils commençaient à être visibles sur un peu trop de résultats, et puis Google s'est penché sur leur cas, et puis c'était bien de faire un exemple de temps en temps.
D'accord, donc en théorie, que ce soit de l'échange de liens ou de l'achat de liens ou n'importe quoi qui est trafiqué, du coup, si on le fait trop bien et qu'on finit par prendre trop de place, on peut avoir une pénalité alors en fait.
Bah, c'est quoi l'expression le clou qui dépasse attire le marteau.
D'accord. Ok, et en parlant d'échange de liens du coup, c'est une pratique qu'on peut faire ou pas?
Bah, elle n'est pas autorisée par Google.
Enfin, visiblement pas à l'excès. Mais est-ce qu'il faut faire quoi? Des triangulaires? C'est-à-dire que se mettre d'accord avec trois sites et faire des... Toi, tu prends un lien pour lui, toi, tu prends un lien pour lui, comme ça, c'est caché. Est-ce qu'il faut attendre? Je ne sais pas, on attend 2 mois entre... moi, j'ai mis mon lien, tu peux le mettre ton lien dans 2 mois. Est-ce qu'il y en a, ils font avec 4 sites, il y en a, ils font avec 5 sites? Enfin, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des précautions qui fonctionnent mieux que d'autres, d'après toi?
Alors, je ne sais pas, parce que j'ai jamais changé de lien. Ça m'a toujours gonflé. Parce qu'il y a toutes ces questions-là que tu as évoquées. Et en fait, tu prends un temps mais infini à dire, voilà, tout ce genre de détail, ok, tu mettras dans 2 mois, mais sur tel site, avec quelle URL et machin. Et en fait, tu te retrouves avec un niveau de complexité complètement dingue, quoi. Avec en plus des gens, des fois, qui sont complètement flippés en face, ouais, mais quand même, faut faire hyper gaffe et tout, machin. Alors du coup, c'est une ambiance complètement dingue. Donc du coup, j'ai fait 2-3 échanges et puis j'ai vite arrêté parce que c'était trop long. Et finalement, entre passer beaucoup de temps et bêtement acheter un lien dans un article sponsorisé propre où tu indiques clairement ce que tu veux, et ben, l'achat a été beaucoup plus intéressant parce que tu perdais moins de temps.
Ouais, mais tu vois, par exemple, le problème avec l'achat de liens, c'est que si un site fait trop d'achats de liens, il est flagué par Google et du coup, tous ces liens externes vont transmettre aucune autorité et du coup, on aura acheté un lien pour rien et on le saura même pas, quoi.
Oui.
Alors que l'échange de liens, moi ce que j'aime bien c'est le côté artisanal, justement, le truc, la galère, c'est-à-dire que c'est tellement chiant à faire un échange de liens que du coup, les gens ils peuvent pas avoir un côté industriel, ils peuvent pas avoir des tonnes d'échanges de liens en fait, en théorie.
Mais non, parce qu'en fait les sites sur lesquels ils proposent de faire des échanges, en général c'est des sites de SEO. Faut pas rêver, les gens qui ont des sites propres, ils ont pas envie.
D'accord, alors du coup c'est ça la différence, parce que moi je parle d'échange de liens du coup. Entre, par exemple, moi j'ai une marque de chaussons, et eh bien je vais aller contacter les autres marques de chaussons, tu vois. On va dire des brosses à chaussons, voilà, un sujet connexe à ton activité à toi. Et je vais faire des échanges de liens avec des gens qui ont peut-être jamais entendu parler de ça, et du coup il va falloir que je leur explique, et ça va être encore plus chiant, tu vois, mais au moins, là c'est pas avec des SEO que je traite, tu vois, c'est avec d'autres marques, et je leur fais comprendre qu'il y a un intérêt SEO pour tout le monde, tu vois.
Alors oui, dans ce cas-là, oui, on pourrait partir sur un échange de liens, mais en fait, le problème avec les gens dont c'est pas le métier, c'est que déjà, faire un lien, on va arriver sur des choses compliquées en technique, et puis le e-commerce, bah, ils vont migrer leur e-commerce vers une autre technologie. Puis alors là, tu peux être sûr que tous les liens échangés, bah, ils sont fauchés au passage parce que bah, c'est plus du tout la priorité. Donc tu te retrouves. Donc au moment où il faut poser le lien, c'est compliqué parce que c'est un e-commerce et c'est pas prévu pour. À la prochaine migration ou prochain changement technique, bah, tu as une chance sur deux pour que tous les liens y volent parce que bah, de toute façon, ils sont pas prévus pour être là. Et puis le mec, il a mis ça à ce moment-là, mais il sait même plus que ça existe. Lui, il est en train, depuis le temps qu'il a fait ça, il a vendu 10 000 paires de chaussons. Il y en a 5 000 qui sont bloqués en Chine avec le coronavirus. L'échange de liens dont il n'a rien compris finalement, il s'en fout. Hein.
Donc finalement, il ne reste plus que les PBN alors, si je comprends
bien. Quasiment. Je veux dire, si les PBN ont eu et la vente de liens a eu un tel succès, c'est pas parce que les échanges c'était super facile et puis que c'était tout le monde captait le truc tout de suite et s'y mettait, quoi. Ça existe parce que c'est compliqué de faire du lien naturel. Et là, je suis en train de faire une presta pour un client. Il m'a demandé de lui faire 20 liens de bonne qualité sur des bons sites.
Ok.
Et donc là, je suis allé sur des plateformes d'achat de liens. Et je me dis, bon, allez, je vais chercher des vrais sites qui sont dédiés d'abord à l'utilisateur. Mais c'est l'enfer, c'est horrible. Les mecs, ils sont là, ah ouais, mais votre thématique, là, moi, ça ne me va pas du tout. Hein, je parle des chaussures, je ne parle pas des chaussons. Quand, à partir du moment où il se met sur une plateforme d'achat de liens, normalement, c'est bon, il a vendu son âme au diable, quoi, c'est fini, son utilisateur. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça la vérité, quoi. Soit tu te dis, je fais un site pour mon utilisateur, et puis je suis dans mon business model, et puis voilà, quoi. Soit tu te dis, bah non, c'est bon, mon site, il a foiré, et puis je vais vendre du lien sur une plateforme de liens, et puis dans ce cas-là, bah, j'ai des clients, et puis je m'arrange pour que ça marche, quoi.
Mais donc eux, même non, ça, c'est chiant, alors. Du coup, il reste vraiment plus que les PBN, alors.
Mais c'est affreux. Alors moi, j'ai pris une commission misérable sur chaque article publié, en me disant, bon, facile, je fais 3 clics, et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Et là, je galère dessus depuis un mois, parce qu'en plus, les mecs, ils prennent le temps, hein, de le faire. Ah ouais, mais attends, j'attends le bon moment, hein, pour mettre mon article sur les chaussons. Mais purée, je suis en plein test, là. Tu peux pas attendre, il faut que ça soit maintenant. Puis il fait, non, mes utilisateurs, ils ont pas envie d'un truc sur les chaussons maintenant. Bientôt, ça le fait des pères, je le mettrai à ce moment-là.
Et alors, qu'est-ce que tu penses de la technique qui consiste à aller chercher des gens qui parlent d'une ressource qui ressemble à l'article que tu as écrit, mais du coup, toi, tu penses que ton article, il est mieux, par exemple. Et du coup, tu vas aller contacter ces gens-là, le webmaster, et tu vas leur dire, bah, mon article est un peu plus complet, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser à la place de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Est-ce que ça a déjà marché pour toi? Parce que moi, perso, j'ai jamais réussi à faire marcher ça. Je tombe sur des complexités humaines, un peu comme ce que tu décris, qui sont des grosses frictions, j'arrive pas.
Bah, c'est compliqué, parce qu'en fait, à la base, il n'y a personne qui a intérêt à faire un lien vers un autre site. Ça, c'est le truc évident. Faire un lien, ça prend du temps. Ça te fait perdre des visiteurs. En fait, si tu veux obtenir un lien comme ça, tu as intérêt à citer le nom de la personne dans l'article.
Ah, ok.
Ça marche bien.
Ouais, bonne idée.
Comme dirait machin, je vous ai cité, vous devriez faire un lien vers mon site.
Ouais, bonne idée. Écoute, j'avais pas pensé à ça. J'ai une ressource qui est hyper complète et en plus, tu es cité comme une référence dans mon article. Et là, ça passe.
Oui, ça passe beaucoup mieux.
Ok. Et alors, en ce qui concerne nofollow, dofollow, c'était un truc. C'est quand on dit à Google de tu suis ce lien ou tu suis pas ce lien. Officiellement, Google n'était pas censé suivre les nofollow. Après, on se rendait compte que finalement, ils le suivaient quand même. Est-ce que ça a encore une importance de faire du nofollow, du dofollow ou pas, quand on fait des liens externes
Alors, en fait, le truc, dans les deux cas, Google, pour visiter, pour trouver l'intégralité du web, il suit les liens. Donc, le nofollow, en fait, il a été mis en place, pourquoi? Parce qu'il y avait le spam sur les commentaires de blog qui commençait à devenir un vrai problème, parce que les SEO spammaient en masse les commentaires de blog pour avoir du lien dans ses commentaires. Et donc le nofollow, ça a été une réponse à ce problème-là, en disant, les blogueurs, vous pouvez mettre nofollow sur les liens qui sont présents dans vos commentaires, dans les spams, et comme ça, ces liens-là ne seront pas pris en compte.
Okay.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pas pris en compte, ça veut dire que ce lien ne transmet pas de jus, ne transmet pas d'autorité. Il n'est pas reconnu par Google. Par contre, Google, lui, quand il scanne l'intégralité de la page pour trouver les liens, oui, il va suivre la page pour trouver d'autres pages, mais il ne va pas prendre en compte que c'est une page d'autorité. Et ça, ça marche toujours, par contre. D'ailleurs, ça marche tellement bien que là, Google, ils sont même allés plus loin parce qu'ils ont sorti un nouvel attribut qui est sponsorisé.
Ouais.
Et donc, ça permet de dire, bon, alors, il n'est pas nofollow, hein, mais il n'est pas non plus tout à fait naturel. En fait, il est sponsorisé. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire derrière, sponsorisé. Mais en tout cas, bon, a priori, ça va envoyer moins de jus, forcément, parce que c'est sponsorisé, donc c'est pas naturel.
Et est-ce que c'est un truc que tu fais attention, ça, de mettre, quand tu mets des liens externes, vers un site qui n'est pas d'autorité, qui ne peut pas te rapporter une crédibilité SEO, de le mettre en nofollow, c'est un truc que tu fais encore?
Non, moi je mets jamais des liens en nofollow si c'est moi qui crée le lien, sinon ça n'a aucun sens.
Ok, mais tu vois, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont des pratiques en tête et qui disent pas plus de 2 liens externes par article, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, quand ils arrivent à 3e lien, ils font oh là là, comment je vais faire? Et ils mettent le 3e lien en nofollow, tu vois.
Ouais, mais bon. Moi, je peux rien le faire, là.
Ok, d'accord.
Si tu répondras ça, je veux dire, les gens, il y en a beaucoup, ils sont complètement psychos. Hein. Ça sert à rien de discuter avec eux. Tu peux leur dire, mais non, mais réfléchis. C'est comme les gens qui disent, je me suis pris 50 liens d'un coup, je vais me faire pénaliser et tout. Mais non, pourquoi tu te ferais pénaliser? T'as le droit de prendre 50 liens naturels d'un coup. T'as le droit de faire un buzz, et puis t'as 50 blogueurs qui parlent de ton site. T'as le droit, c'est des choses qui existent dans la vie réelle, qui arrivent. Ça arrive pas souvent, mais des fois ça tombe sur les gens. Et c'est pas pour ça qu'ils vont se prendre une pénalité.
Ouais, mais c'est tout ce flou. Tu vois, c'est le côté un peu rétro-ingénierie. Les gens ont un peu peur quand il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Ça les angoisse, donc du coup, c'est ce genre de comportement qui réapparaît facilement, quoi. De vouloir se plier à des pratiques et appliquer des pratiques qu'ils ont lues à la lettre, ça les rassure, tu vois.
Mais ces gens-là, ils ne devraient pas faire du SEO, hein, et ça va les rendre malades.
Ouais. Ok, donc on l'a donc bien compris, finalement, le PBN, ça paraît une bonne solution pour maîtriser un peu mieux son netlinking, c'est bien ça, hein.
Ah bah oui, complètement. Parce que c'est ce que j'expliquais un petit peu avec le e-commerce qui fait une refonte de son site et qui envoie valser tous les liens sans même s'en rendre compte, c'est qu'on perd du netlinking, alors qu'avec un PBN, on est sûr et certain que les liens sont verrouillés. Et en plus, si c'est notre propre PBN, un autre avantage, c'est que les concurrents, ils n'auront jamais ces liens.
Et toi, tu as la main dessus. Donc, si jamais il y a une pénalité à un moment et que tu dois tout supprimer d'un coup, ben, tu peux le faire. Alors que va recontacter les gens en leur disant « tu vous rappelez est-ce que vous pouvez enlever le lien ?» et tout ça. Ça, c'est encore une autre galère, quoi.
Parce que des fois, ben, les gens on peut plus les contacter, tout simplement.
Ok. Alors du coup, ça arrive. Comment ça fonctionne ? Comment tu fais pour mettre en place un PBN ? Voilà, là, je m'adresse à l'industriel du web. Est-ce que tu peux nous parler de l'article que j'avais découvert, les fameux 430 WordPress pour faire un PBN pour un client ? Qu'est-ce que tu fais étape après étape, en fait ?
Alors déjà, de base, un PBN, c'est quoi ? C'est juste des sites internet. Alors, en ce moment, c'est des WordPress, donc c'est des blogs, en fait. C'est majoritairement ça, parce que c'est pratique. Donc, si je veux créer un PBN, bah, c'est simple, en fait. Hein. J'ai juste à réserver quelques noms de domaine, poser dessus un site de type blog WordPress, et puis commencer à mettre quelques articles, et dans ces articles, je vais poser des liens. La base, c'est ça, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste ça. Après, on va pouvoir rajouter dedans des composantes un petit peu plus SEO. Donc par exemple, au lieu de partir sur un nom de domaine neuf qui, par définition, n'a aucune autorité pour Google, peut-être qu'une bonne idée, ça va être d'essayer plutôt de récupérer un nom de domaine qui a déjà été utilisé par un vrai site précédemment, pour poser dessus notre WordPress et récupérer ainsi l'autorité historique du site pour pouvoir la renvoyer sur d'autres sites.
Est-ce que ça disparaît pas, ça, avec le temps ? Question bête, mais une fois que tu as racheté un nom de domaine, que tu as mis en place un site dessus, absolument toute l'autorité, tous les backlinks vont être gardés dans le temps ? Il n'y aura pas de perte ?
Alors, ça dépend comment tu le fais. Par exemple, il y en a qui jouent avec ça, ils récupèrent un nom de domaine et ils vont chercher dans Webhack Archive, donc c'est un site qui va archiver le web.
Ouais.
Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils pompent l'intégralité du contenu de Webhack Archive et ils le remettent, en fait, ils reprennent l'ancien site et ils le remettent à sa place, sur le nom de domaine. Et en fait, le site reprend des positions.
Ok.
Reprend les positions d'avant. Donc ça fonctionne.
Oui, parce que sinon, il y a des backlinks qui dirigeaient vers une page spécifique. Si vous remettez un site et la page spécifique n'existe plus, bah, le backlink va disparaître, quoi.
Voilà, donc là, en général, ce qui est fait, c'est... Donc soit il y a cette méthode, on récupère l'ancien contenu, mais moi, je ne le fais pas parce que je considère que c'est du vol de contenu.
Ok.
Ou alors, bah, tu prends les anciens liens et tu reposes une nouvelle page sur ce qui était avant l'URL correspondante, ou alors tu reprends l'URL et tu la rediriges vers une autre page ou la page d'accueil.
Tu fais quand même ça, quoi. Tu fais quand même le travail de remettre toutes les URL qui existaient avec des backlinks pour pouvoir les rediriger vers quelque chose que ce soit pas perdu, quoi.
Alors, moi, je le fais pas parce que, en général, les liens, les noms de domaines que je récupère, ce sont des noms de domaines faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un historique phénoménal et ils n'ont pas beaucoup de liens.
D'accord.
Et du coup, les sites qui ont des historiques faibles, en général, les liens, ils sont sur la homepage.
Ok.
Sur la page d'accueil. Et du coup, bah, j'ai pas besoin de faire des redirections ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est la page d'accueil qui prend. Donc, il n'y a pas de perte à ce niveau-là. Par contre, si je m'amusais à prendre des sites avec une grosse autorité, donc un gros historique, et donc qui sont susceptibles d'avoir reçu des liens, non pas sur la page d'accueil, mais sur les pages internes, alors là, oui, vu que j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour acheter ce nom de domaine, je pense que je ferai beaucoup plus attention à ce détail.
D'accord. Et c'est quoi tes critères, du coup, de sélection des noms de domaine expirés?
Alors, le critère de ce client-là, en fait, était un peu extrême. Lui, ce qu'il voulait surtout, c'était un historique qui soit dans la thématique.
Okay.
Donc, par exemple, s'il vendait des chaussons, il voulait que ça parle au minimum des chaussures ou des bottes ou de la mode. Allez, jusqu'à la mode, on va dire.
Okay.
Que ça soit sur cette thématique-là. Il voulait surtout qu'il n'y ait pas eu de spam sur le nom de domaine. Donc souvent, enfin,
ce qui arrive. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le spam en SEO? Parce que c'est une notion, enfin, le terme est utilisé dans d'autres disciplines, mais en SEO, c'est pas tout à fait la même chose.
Donc là, le spam sur un nom de domaine, c'est donc il y a un premier webmaster qui a acheté un nom de domaine, par exemple monchausson.fr. Donc ça n'a pas marché, il n'a pas continué à payer la réservation du nom de domaine qui est retourné dans les noms de domaine disponibles. Et là, il y a eu un black hat qui est arrivé et...
Encore.
qui a récupéré le nom de domaine et qui, au lieu de placer un site propre sur les chaussons, a placé par exemple un site de rencontre libertine. Ou un site de contrefaçon, c'est ça qui est quand même plus fréquent.
Okay.
Donc du coup, on se retrouve avec un historique dans lequel, pendant 1 ou 2 ans, tu as eu un site de contrefaçon et qui laisse une très mauvaise image du nom de domaine à Google, potentiellement.
Ça dégrade l'image du site pour Google, quoi.
Il y a un risque que ce site soit considéré comme du spam. Donc on va préférer éviter ce genre de site pour pas... que ça ne serve à rien ou qu'éventuellement ça ramène des soucis.
D'accord. Et le profil de lien d'un site, c'est quoi?
Moi, à titre personnel, j'aime bien quand il y a au minimum 10 liens. Alors ça peut être de l'annuaire, du commentaire de blog, des trucs pas très puissants. Hein. Mais voilà, qu'il y ait un minimum de liens, même pas forcément follow. Mais,
D'accord. Donc le profil de lien d'un site, c'est l'ensemble des liens qui pointent vers lui, quoi.
Ah oui, pardon. Oui, c'est ça. Et alors du coup, sur ce profil de lien-là aussi, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas eu du spam aussi. Parce que peut-être que le e-commerçant ou celui qui a fait le site de contrefaçon,
ouais.
À un moment donné, il s'est amusé à se prendre pour le génie du SEO et il a fait 1000 liens sur des forums de façon automatisée. Et bien ça, sur le profil de lien, ça continue à se voir.
Okay.
Et en fait, on se retrouve avec un profil de lien où il y a 850 liens. Et le texte du lien, ce qui est en bleu, ce qui apparaît en bleu sur les pages web, et ben à chaque fois c'est monchausson.fr. Bon, ben alors ça, mais.
Ouais, d'accord. Donc des encres ultra optimisées, ce qui n'est plus conseillé aujourd'hui pour faire du backlink, quoi. Ok. Et du coup, tu regardes les trucs genre. Le Trustflow, alors Trustflow, c'est, je dis ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un truc qui a été inventé par Majestic, qui est un outil SEO, et qui est censé reprendre plus ou moins le PageRank de Google, qui était un truc qui définissait l'autorité d'une page, quoi, en très gros. Hein.
En gros.
Et du coup, toi, tu choisis quel Trustflow? C'est un truc, c'est sur 100, enfin c'était sur 100, enfin sur 10, le PageRank, mais bon, là, c'est sur 100. Ton Trustflow minimum, maximum, tu regardes quoi?
Alors, bah, moi, je suis un peu comme mon client, en fait. Je vais surtout regarder, c'était la thématique, l'historique pas spammé, et puis pas de profil de lien spammé. Donc,
ouais.
Donc, en fait, le Trustflow, je m'en fiche un peu, parce que de toute façon, j'ai mon PBN personnel.
Ouais.
Et lui, je vais faire des beaux liens comme il faut et qui vont ramener du Trustflow.
Donc, d'accord.
Il va gagner en confiance le site. J'ai pas besoin qu'il soit absolument trusté, le domaine de base, pour après le faire monter. Je suis un petit peu cultivateur de nom de domaine aussi. Je les travaille, je les fais pousser pour qu'il soit beau.
Mais alors du coup, c'est quoi ton intérêt principal à récupérer un nom de domaine expiré dans ce cas-là? C'est juste que le truc il soit âgé?
En fait, c'est surtout ça.
C'est ça, hein?
Parce que si tu fais un PBN que avec des sites neufs, bah, c'est difficile d'avoir un petit peu de diversité dans ton profil de lien.
D'accord.
Parce que là, bah, du coup, tu te retrouves avec des sites qui parfois, des noms de domaine qui ont 20 ans parfois, d'autres qui ont 3 ans, qui ont un historique un peu différent. Donc voilà, ça évite un petit peu d'avoir trop de points communs.
Tu as tes noms de domaine. Tu mets des WordPress sur ces noms de domaine, tu crées des nouveaux sites. Est-ce que tu prends des précautions au niveau des adresses IP pour pas que Google se rende compte que tous les sites qui pointent vers le Money Site sont sur la même adresse IP finalement? Est-ce que c'est un truc qui est important ou pas?
Alors moi j'en tiens compte. Moi à la base j'étais pas spécialement convaincu par ça, mais en fait c'est mes clients qui m'ont tous réclamé ça. Ah, il faut absolument que ce soit sur des IP différentes pour placer des liens et tout ça machin. Alors du coup bah je l'ai fait pour eux. Et parce que moi en fait j'ai pas peur de montrer mon PBN. Il est propre. Donc Google techniquement il n'a pas grand chose à me dire quoi. Les gens quand ils arrivent sur mes sites de PBN, je dis pas que c'est merveilleux et que tout est formidable. Mais voilà, ça fait pas moins le travail que des fois les trucs des blogueurs amateurs quoi. Donc en fait les gens quand ils arrivent sur mes sites, ils trouvent que c'est joli et puis ils ont leur réponse à leurs questions. Donc en fait moi j'ai pas vraiment peur de Google. Mais par contre mes clients, eux, ils avaient très peur que ce soit toujours les mêmes IP qui ressortent. Alors du coup bon bah j'ai commandé des IP différentes et puis je mets une IP différente à tous mes sites et puis comme ça ils sont contents.
D'accord.
Puis, ça marche.
Donc du coup, IP différente, tu mets des WordPress. Mais alors, le truc avec le WordPress, c'est que il faut l'alimenter en contenu régulièrement, non? Donc une fois que tu as livré ton PBN, du coup, bon, je suppose que dans un premier temps, il commence à faire un lien par site. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite sur ce site-là? Ils vont continuer à mettre des contenus, mettre d'autres backlinks? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors eux, ils ont une machinerie d'enfer. En fait, ils ont des moyens de publier du contenu régulièrement sur tous les sites.
Ouais.
Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ils vont pas mettre des liens à chaque fois sur chaque article, sur chaque nouveau article. Ils vont mettre, ils vont publier 5-6 articles sans lien. Et puis le 7e, il aura un lien.
Ok. Donc d'accord. Ils veulent vraiment que ça ressemble à un blog normal, quoi.
Voilà.
D'accord. Mais alors du coup, pourquoi des blogs et pourquoi pas un réseau privé de sites pur HTML? Comme ça, c'est un peu moins nécessaire. Il n'y a pas le CMS blog, il n'y a pas besoin de l'alimenter davantage.
Alors, je suis d'accord avec toi parce que il y a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de piratage, c'est beaucoup plus léger. Et en fait, à la base, moi, mes PBN, j'avais commencé par faire des sites 100% HTML. Mais il y a un énorme inconvénient, c'est que pour modifier des sites qui sont 100% HTML, c'est très compliqué. Tu vas ajouter une page. Et encore, moi, j'avais développé un CRM qui me permettait de le faire, donc ça allait quand même assez vite. Mais avec le WordPress, c'est quand même beaucoup plus pratique, parce que quand tu vas rajouter une page, tu cliques sur « Ajouter article », tu mets ton contenu, et voilà, c'est fini. Et un autre avantage, c'est que tu peux dire à n'importe qui en France, quasiment, tu lui expliques en 10 minutes comment ça marche un WordPress, et voilà, il sait modifier un site. Et tu as aussi la revente aussi, c'est-à-dire que tu ne vas pas revendre un site qui est full HTML. Tout le monde sait que c'est chiant. Alors qu'un site à WordPress...
Ouais, WordPress, ça se revend plus facilement, ouais. Ok. Et dans ton PBN, t'as combien de sites dans ton PBN à toi?
Là, je vais arriver à 500.
Ah, quand même.
Donc je commence à rentrer dans la catégorie des PBNistes costauds.
Des PBNistes, je savais pas que ça existait comme ça. Et du coup, 500, c'est quoi ton usage? Tu vends un peu de liens, je suppose, et tu fais un peu de liens vers des money sites?
Alors j'ai mes money sites qui sont boostés, et je vends un peu d'articles, et je loue du lien aussi dessus. La location de liens en page d'accueil.
La location de liens en page d'accueil, ça on n'en a pas parlé, ça j'ai jamais fait ça. Location de liens en page d'accueil, qu'est-ce que ça apporte de faire ça, de la location de liens en page d'accueil, par rapport à l'achat d'un lien?
L'avantage, c'est que par exemple, tu achètes un lien sur un article de type WordPress, donc c'est un blog. Donc au début, ton article, il est présent sur la page d'accueil, parce qu'il est tout neuf. Et donc...
Ouais, après, il va dans les profondeurs
du site. Et après, un petit peu à la fois, il va tomber dans les profondeurs du site où il va être oublié. Bon. Et puis là, il ne va plus rien transmettre. Alors qu'avec un lien en page d'accueil, tu n'as pas cet inconvénient-là, parce que ton lien est toujours sur la page d'accueil, là où tout le jus est concentré. Toute la puissance, toute l'autorité est concentrée. J'ai un client qui est assez particulier. Lui, ce qu'il achète, donc il achète du lien home page parce qu'il considère que c'est plus puissant, mais ce qu'il achète surtout, c'est de l'encre. Donc l'encre, c'est le texte en bleu sur le lien.
Ouais.
Donc il achète de l'encre diversifiée, c'est-à-dire que quand je lui fais des liens vers son site, je mets des mots qui sont pas le mot-clé de son site. Je vais mettre des « voir ici »,« voir là », »,« aller sur cette page »,« aller sur ce site ». Et du coup, en fait, lui, il trouve que c'est pas cher payé de louer du lien en page d'accueil pour mixer son profil de lien, pour qu'il y ait des encres différentes. Alors tu vois, t'as beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est pas que je transmets du jus. Des fois, c'est très pointu, des fois.
Ok, très bien. Alors, rapidement, deuxième étape du framework AR, l'activation.
Oui.
Ouais, en fait, non, on a passé beaucoup de temps sur l'acquisition. On va passer beaucoup moins de temps sur le reste du framework, mais ça peut être intéressant d'en parler aussi. Pour parler de l'activation, j'aimerais bien parler de ton activité du coup d'industriel web. En ce qui concerne ta relation avec les clients, les gens qui visitent ton site, qui lisent tes articles, tu vois, est-ce que tu as identifié l'étape d'activation, c'est-à-dire le moment où tu accroches les gens, où voilà le aha moment quand ils se disent bah voilà, ça c'est vraiment différent, intéressant, c'est là où tu les as vraiment accrochés quoi. Est-ce que tu as identifié ce moment-là?
Alors le moment c'est quand ils ont lu un article et que ça leur a plu en fait et qu'ils ont vu quelque chose d'original qu'il n'y avait pas ailleurs. Et ça c'est fondamental je pense dans des blogs comme le mien, c'est toujours dans un article, essayer d'apporter un truc qui n'a pas été vu ailleurs. Alors, par exemple, bon déjà, des fois, c'est facile. Hein. Quand tu parles d'un PBN de 436, bon, tu es sûr qu'il n'y a personne qui l'a fait avant, ouais. Et c'est gagné.
Voilà. Ça aide pas mal, ouais.
Par contre, là, j'ai fait un article qui parle de la longueur du contenu. Pouf ! C'est un truc, ça a été pilonné, ce sujet-là, mais par tous les sites de référenceurs. Tous les sites de référenceurs, ils ont parlé de la longueur du contenu. Et ben, moi, sur mon site, sur mon article, il y a un truc un peu spécifique, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une capture d'écran de l'ensemble de chaque site et je les ai mis les uns à côté des autres pour bien montrer que la taille elle est différente.
Ouais.
Ça a l'air bête, ce truc-là. Il n'y a personne qui a jamais fait une capture d'écran de trois sites pour comparer la taille. Ça, c'est nouveau, tu vois. Et c'est peut-être ça qui va déclencher un tweet, qui va déclencher un appel, qui va déclencher un truc pour ce petite chose qu'on ne s'attendait pas à voir parce qu'on n'avait jamais vu. Et ça, c'est important de l'intégrer dans chaque article.
Donc, quand tu rédiges un article, tu vérifies toujours qu'il y a un élément de différenciation à l'intérieur, quoi. C'est ça ?
Ah oui, parce que sinon, ça ne sert à rien d'écrire.
Et du coup, dans la rédaction, dans le copywriting de tes articles, tu appliques des méthodes particulières dans le déroulé, tu vois, dans le storytelling, pour accrocher un peu plus les gens ?
Bah déjà, il y a cette histoire-là de vitesse que...
Oui, que tu nous as dit tout à l'heure, qui était super intéressante, ouais.
Avant, je mettais beaucoup de gifs pour essayer de...
Ah, c'est marrant, moi aussi.
Un peu de peps, mais ça, j'ai arrêté.
Ah, pourquoi t'as arrêté? Parce que moi, je suis encore à cette étape-là. Je mets encore des gifs pour rendre ça
Je sais pas, c'est parce que j'approche la quarantaine. Je suis plus là pour rigoler, je sais pas.
D'accord.
Bah, mais après, c'est pareil, c'est récurrent. Parce que quand tout le monde l'a mis, quand t'es le premier à mettre des gifs, c'est sympa, t'es, ah tiens, c'est marrant et tout. Mais quand tout le monde met des gifs et que finalement c'est toujours les mêmes qui finissent par revenir un petit peu à la fois, bah, t'en as marre. Je veux dire, t'étais plus différent, t'étais comme tout le monde. Donc ça sert à quoi? Donc il faut trouver autre chose.
Ok, et alors du coup, en parlant de rédaction, t'as créé le site Bulldoze qui propose des rédacteurs en direct sans abonnement et sans commission. Alors pourquoi t'as fait ça? À part vraiment le côté facilitateur, est-ce qu'il y a une idée derrière ça?
Alors en fait, il y en a plusieurs. À un moment donné, j'ai proposé une prestation de rédaction à mes clients. Donc voilà, ils me passaient des commandes et puis moi je rédigeais des textes. Mais c'est pas moi qui rédigeais, évidemment, c'était des rédacteurs. Mais moi j'étais pas du tout à l'aise. Alors. Donc du coup, j'ai créé une interface pour passer des commandes, une interface pour que les gens puissent rédiger, et une interface pour pouvoir facturer et le client et le rédacteur. Enfin, que le rédacteur puisse me facturer. Donc j'avais tout fait, tout bien. J'avais mon petit processus qui tournait bien et c'était tranquille. Mais moi, j'étais mal à l'aise avec l'idée de me prendre une commission sur des gens qui sont déjà très pauvres. Enfin voilà, donc du coup, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas continuer dans cette voie-là. Donc finalement, je me suis dit, bon, écoute, on va pas s'embêter. Je mets le processus à disposition gratuitement, comme ça, ils peuvent continuer à travailler avec mes clients, donc j'ai donné les clés de mes rédacteurs à mes clients, donc ils ont pu continuer à travailler avec eux en direct, donc j'étais plus intermédiaire, et ces rédacteurs-là, bah, du coup, ils ne payaient pas de commission pour travailler, et puis, bah, du coup, voilà, c'est une taxe de moins pour eux, ils peuvent facturer un petit peu plus cher. Et puis, tout le monde était content.
Ça peut pas t'aider en in-band, par exemple ?
Pour l'image de marque, ça aide. Parce que, par exemple, les clients et les rédacteurs, quand ils reçoivent un mail de notification, c'est marqué dessus François Tréca. Bon, ça a l'air bête, hein, mais...
Ouais, c'est bien.
Après, j'en parle aussi de ce site. Donc, du coup, bah, les gens, ils se disent « Waouh, c'est cool, c'est gratuit. Bah, c'est sympa, quoi, parce que toutes les plateformes qui font ça, c'est payant. En plus, les rédacteurs, ils sont même pas obligés d'utiliser la plateforme. »
Donc, en fait, ouais, tu crées un outil pour faciliter la vie des gens qui sont dans le SEO. Du coup, ça augmente forcément ta crédibilité dans le système, quoi. Voilà. Donc, ok, très bien. Troisième étape du framework R, la rétention. Alors, la rétention en SEO, c'est quand même un truc qui n'est pas souvent évoqué, je pense. C'est tout d'abord que le premier contenu sur lequel soit tombé le visiteur l'est tellement marqué. Qu'à la prochaine question sur un sujet similaire au Connext, il va faire la requête brand. C'est-à-dire qu'il va, il va se rappeler du coup de du site qu'il a visité et il va affilier sa requête, enfin il va associer sa requête à la marque histoire de retomber sur le même site. Ce serait un peu ça l'idée de la rétention pour le SEO. Voilà. Même si c'est une définition qui est un peu artisanal et qui n'est pas très clair pour le moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans une stratégie SEO ou que tu mesures ? Et comment on pourrait, à ton avis, augmenter ce volume de comportement qui ferait que, du coup, quelqu'un essaierait de retomber une seconde fois sur de l'organique, du SEO organique, sans qu'on lui ait pris son email ou sans qu'il soit passé par d'autres moyens de rétention, quoi.
Alors, je vais donner un exemple personnel, ça va peut-être nous guider. Il y a un site qui s'appelle définitionmarketing.fr.com, je ne sais pas.
Oui, exact.
Et qui est tenu par un vrai professeur d'université qui est passionné de marketing et donc qui le remplit consciencieusement. Et d'ailleurs, je le remercie pour son travail qui est formidable. Alors, donc ce site-là, en fait, je tombe sur un terme marketing que je ne connais pas, donc forcément, je demande à Google qu'est-ce que c'est. Et Google me propose ce site pour la première fois, je ne connaissais pas encore, donc je vais dessus. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit « Waouh, génial, ça va être du spam, ça ressemble à du gros spam de SEO, ça va être nul. » Puis en fait, je tombe sur un article hyper, truc très bien fait, détaillé, tout ça, machin, bien expliqué. Je me suis dit « Waouh, c'est cool. » Bon, ouais, j'oublie. Hein. Peut-être 2 mois plus tard, j'ai un autre terme qui me pose question dans le marketing, donc je retape sur Google, je retombe sur définition marketing, et là, je retombe sur un bon article, et tout d'un coup, je tilte. « Ah, c'est vrai, c'est le même. » Ça me dit quelque chose. Alors, j'aurais été incapable, une heure avant, de dire « va sur définition marketing » parce que je me souviens que c'était cool. Mais à ce moment-là, je me dis « ce site me dit quelque chose ». Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais eu besoin de définition et que ça m'avait marqué. Et troisième recherche sur un autre mot-clé, cette fois-ci, je tape mon mot-clé de définition, et cette fois-ci, je cherche dans la recherche, je cherche le définitionmarketing.com ou .fr pour aller directement dessus. Mmh. Et là, la rétention, elle a été faite. Là, c'est gagné. Mais alors, du coup, en termes de SEO, le seul moyen d'avoir de la rétention, finalement, c'est d'être positionné sur plein de mots-clés pour qu'on puisse te retrouver dans le truc.
Bah, en fait, tu pourrais envisager de te positionner sur les mots-clés dans le même parcours client. Tu vois, en se disant que la personne qui a fait cette requête-là, eh ben, elle va sûrement faire cette requête-là juste après si elle veut creuser, tu vois. Et théoriquement, tu n'es pas obligé d'apparaître sur tous les termes de définition marketing comme le site, mais d'apparaître que sur les requêtes qui sont dans le parcours client de ton persona, tu vois. Ça pourrait être une idée.
Bon, je pense qu'en fait, quand on fait la recherche des mots-clés, c'est à ce moment-là, on tombe sur ces termes-là et on les bosse, quoi. Mais ça ne va pas être dans cette optique-là. Ça va être... Parce qu'on sait qu'à ce moment, que quand la personne tape ce mot-clé, potentiellement c'est un client, donc on va travailler le mot-clé. Mmh. Mais ça va, on ne va pas se dire, tiens, peut-être qu'il va faire plusieurs recherches et tout ça. Moi, je ne connais personne qui m'a dit ça un jour.
Ok. Ah bah, écoute, une idée à creuser. Écoute, c'est super. C'est quoi la suite pour toi, du coup ?
Ah, t'as l'exclusivité. Là, je suis en train de proposer une offre de PBN, mais cette fois-ci de luxe. Donc avec que des sites qui auront des niveaux de qualité extrêmement élevés. Supérieur à Wikipédia.
Oh, mais combien ça coûte un site comme ça ?
Ben, j'ai pas encore défini le prix, mais ça sera plus de 1 000 euros en tout cas.
Ok.
Mais bon, derrière, il va falloir. Parce que Parce que figure-toi que comme je tiens un blog, et ben maintenant je sais un petit peu comment ça fonctionne, la rédaction, je sais comment intéresser les gens. Donc il va y avoir des rédacteurs qui vont être spécialisés dans leur domaine. Donc là, par exemple, je cherche des rédacteurs qui ont été comptables dans leur passé. Ouais. Donc pas seulement qui ont déjà rédigé des sites de comptabilité. Non, des gens qui ont une formation de comptable et qui ont été comptables.
Ouais, tu cherches des super rédacteurs, quoi.
Des experts, en fait. Mmh. Et après, pareil, on va optimiser sémantiquement pour que ça soit... que ça soit bien digéré par Google. On va essayer de mettre par exemple des tableaux, des graphiques, des belles images. Vraiment essayer de pousser l'expérience utilisateur au maximum de ce qu'on peut. De vraiment proposer le meilleur service possible aux internautes. Et donc ce site-là, mais bon, ça reste du PBN, hein, on pense à l'internaute, mais on garde à l'esprit que c'est pour le netlinking. Attention.
Ouais.
Donc, quand on a un site comme ça, un site en or, mais c'est facile d'obtenir des liens sur des blogs, sur des forums, c'est complètement justifié. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de la comptabilité, de la TVA intracommunautaire par exemple, pif. On va sur un forum de comptabilité ou d'entrepreneuriat, il y a une personne qui parle de la TVA intracommunautaire, c'est très facile de dire, bah tiens, tu trouveras ta réponse sur ce site-là. Mmh. Et là, il n'y a personne qui peut rien dire contre ton lien, il est 100% justifié, la ressource elle est parfaite. C'est un énorme avantage aussi, ce genre de PBN-là, c'est que déjà Google, ben, il ne peut rien dire, parce que c'est prévu pour les utilisateurs. Les gens qui vont le visiter vont avoir un comportement de navigation qui va forcément être positif, parce qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent dessus. Il y a aussi une autre chose, c'est que j'espère qu'avec ce genre de site, enfin bon, normalement ça marche, mais récupérer des vrais liens naturels.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens... ils vont taper TV intracommunautaire sur Google, ils vont peut-être tomber sur ce site, ils vont dire bah c'est bien, et puis ils vont dire à leurs copains bah tiens, si tu voulais des informations, elles sont là.
Ouais, bah oui.
Et là t'as un PBN magique, parce qu'il s'auto-alimente en jus. Alors là, c'est.
Mais méfie-toi, parce que dans cette voie-là, tu vas commencer après à faire des PBN pour tes PBN, pour gagner des positions et tout. Ça va se compliquer après.
Alors, actuellement, là, j'ai un PBN à deux niveaux, c'est-à-dire que j'ai des sites généralistes. Qui ont beaucoup de trust flow et eux ils font des liens vers des sites plus spécialisés et du coup bah, ça leur donne un peu de jus et ces sites spécialisés qui sont donc thématisés vont pouvoir faire des liens vers d'autres sites monnaie sites cette fois-ci qui sont très spécialisés. Voilà. On en est là pour l'instant.
Ok, d'accord. Alors du coup je suis un peu obligé de te poser la question, comment tu vois l'avenir du SEO?
Alors, moi, je le vois très mal pour ce qui est des 10 liens bleus traditionnels. Ça va être de plus en plus compliqué pour ces liens bleus parce qu'ils vont se faire dévorer par exemple, Google Maps. Quand on cherche un artisan, et ben, y a déjà le Google Maps qui apparaît, qui prend toute la place pour afficher des numéros de téléphone. Quand on fait une recherche sur Jeanne d'Arc, et ben là, y a déjà la biographie de Jeanne d'Arc qui apparaît directement, sans qu'on ait besoin d'aller sur un site. Donc là, il faut l'avenir du SEO, en fait, c'est de la spécialisation, soit voilà, je suis spécialisé pour être visible sur Google Maps, je suis spécialisé pour rendre visible une vidéo sur YouTube, je suis spécialisé pour Google Actualité. Je pense que ça va être plus ça, des spécialisations très pointues, et que les 10 liens vont... Alors ça va pas se faire en deux jours, hein, pas de panique. Mais un petit peu à la fois, ça va se réduire, je pense. Il va y avoir ces widgets Google, donc il va falloir se spécialiser dans un de ces widgets, un, deux, trois peut-être, pour continuer à être visible sur Google.
Ok. Et comment tu fais pour continuer à te former sur le SEO?
Alors, il faut faire des tests. Alors là, c'est exceptionnel. Je suis une formation donc, avec Baptiste Giraud, parce que je voulais aller vraiment au fond du sujet, mais...
Donc c'est une formation cocon sémantique, ouais. C'est ça?
Mais j'avais jamais fait de formation avant. En fait, j'ai tout appris sur le tas. Et je passe mon temps à faire des tests. J'entends une idée, faire trois liens en blanc, ça fonctionne. Ah bon? Bon, bah, je teste et puis je regarde. Et puis si ça marche pas, je suis capable de dire aux gens, non, ça marche pas, parce que regarde, j'ai fait ça et ça marche pas. Et ça fait toute la différence avec ceux qui disent « Ah, il faut faire trois liens blancs, parce qu'en fait, ça marche, machin, il a dit.
Ouais, » ouais.
Puis quand tu montres un truc aux gens, finalement, souvent, ils disent « Ah ouais, bah, bye. Et ça change tout.
Et du coup, est-ce qu'il y a des gens que tu suis en SEO FR, en SEO US, des gens qui ont crédit à tes yeux, qui méritent d'être suivis?
Alors, en SEO, les gens que je suis... c'est ceux justement qui vont apporter non pas des idées clés en main. En général, quand il y a un SEO qui apporte une idée clé en main, souvent il a un truc à vendre. Donc celui-là, il n'est pas très intéressant. Par contre, j'aime bien, c'est ceux qui lâchent des petites brides d'idées. Et il faut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Comment il...
Alors, je mettrai tout, évidemment tous les noms dans la description. Mais dis-les-moi quand même. Ouais.
Alors, vas-y. Qui je suis ? Moi, j'aime bien suivre, c'est Raph SEO, Dedou. Romain Pierrotte, il est intéressant. J'aime bien Rodrigue, je ne sais plus si c'est Fernand ou Fénard, enfin bref. Rodrigue, j'aime bien. Mais ce n'est pas des gens qui vont donner des clés directes. C'est des gens qui ont des idées, c'est des entrepreneurs. Et ils sortent des lubies, mais tiens, j'ai fait ça et ça marche. Puis c'est tout. Ils te laissent avec ça. T'es là sur un tweet, alors t'es là, qu'est-ce qu'il a fait ? Puis alors, du coup, tu grattes un petit peu la tête, te dire qu'est-ce qu'il a pu faire, pourquoi il a dit ça. Et puis tu essaies de faire comme eux, alors tu te rapproches, puis des fois bah, tu trouves pas, mais. Alors c'est ça qui est super intéressant dans les tests, et c'est ça qu'il faudra retenir, je pense, au niveau du test. Si on teste un truc, finalement ça marche pas. Mais il s'est passé un autre truc qu'on n'avait pas du tout imaginé.
Oui, ça arrive,
effectivement. Et là tu te dis, bah, attends, c'est fou, j'aurais jamais pensé que ça ferait ça. Mais c'est un truc de dingue, et après tu retravailles ce point-là, et puis finalement tu as trouvé un truc que personne n'avait vu auparavant, mais si tu n'avais pas fait le test qui a foiré, mais qui a permis de déclencher autre chose, bah finalement ça te donne une idée, et typiquement là ce que je t'expliquais sur la vitesse des lectures,
oui.
si j'avais pas fait le test sur la longueur des textes, et ben je ne me serais pas rendu compte de ça, de l'importance que ça a pour les gens de ne pas dépasser 2000 mots, parce qu'après on est épuisé, puis on ne peut pas lire la suite. Et du coup, de trouver un moyen d'arranger ça. Comment faire pour que les gens, même si le texte il fait 2000 mots, comment faire en sorte qu'ils puissent passer 30 secondes dessus et puis comprendre l'essentiel.
Y a-t-il des livres, des films, des personnes ou autres qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent dans la vie ?
Alors, il y a eu 4 livres bien inspirants qui m'ont bien fait avancer. Donc, c'est La semaine de 4 heures.
Ouais.
Alors, beaucoup de critiques sur ce livre, mais moi, il m'a permis de diviser par deux ma charge de travail.
D'accord.
Quand tu passes de 50 heures à 25 heures et que finalement, tu produis exactement le même résultat, c'est formidable.
Donc, c'est la semaine de 25 heures, alors, en fait.
Voilà. Mais le mec, il y a l'effort sur le titre pour vraiment rentrer dedans, mais voilà, il ne faut pas croire cette promesse-là. Mais il y a quand même des choses qui sont activables très, très facilement et qui te font faire un ménage d'enfer dans tes tâches inutiles qui sont chronophages, idiotes et qui te rapportent rien.
Et c'est quoi le meilleur exemple que t'as tiré de ce bouquin ?
Bah, au début de mon... Quand j'étais entrepreneur, au début, j'étais visible sur 5 réseaux sociaux. Mais je me disais, bah si, il faut le faire, parce que en fait, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et puis après, tu lis la semaine de 4 heures, et puis le mec, il t'explique, bah, vous notez sur un papier toutes les tâches que vous faites, et vous mettez en face combien ça vous rapporte. Puis en effet, bah, finalement, j'avais strictement le résultat, c'est-à-dire bah, rien, sauf qu'en fait, je passais 5 fois moins de temps à travailler sur les réseaux sociaux. Et en plus, j'étais plus efficace sur Twitter, ce qui me permettait d'avoir plus d'interactions.
Mmh, d'accord.
Et finalement, c'est tout bénef.
Ok, donc la semaine de 4 heures.
Alors, ensuite, il y a S'organiser pour réussir. Alors là, c'est un peu le même style que la semaine de 4 heures, mais en costard-cravate. C'est-à-dire que ça s'adresse à des dirigeants d'entreprise. Tu te rends compte qu'en appliquant certains conseils assez basiques, ça j'en ai parlé dans un article qui s'appelle « Gestion efficace et sereine du travail », je crois. J'expliquais ma méthode, comment je m'y prends. Et en effet, tu fais ton boulot tranquillement, tout avance vite, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un livre qui a changé ma façon de travailler de A à Z.
Ok.
Et j'ai plus rien oublié depuis ce temps-là.
Ah quoi ? Bah écoute, je vais voir ça, je connais pas ce bouquin.
Alors après, il y a encore 2 autres livres qui eux sont liés à l'industrialisation, c'est l'autobiographie de Taylor et de Ford.
Alors bah du coup, tiens, moi je confonds toujours le taylorisme et le fordisme, c'est quoi la différence du coup ?
En fait, il y a une grande différence, c'est deux époques différentes qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que autant de Taylor, t'as pas l'électricité, la machine à vapeur elle vient tout juste de commencer, et du coup t'as pas de moteur. Et ça, c'est important, c'est de ne pas avoir de moteur. Comment tu fais pour automatiser des choses si tu n'as pas de moteur ? Et en fait, Taylor, lui, il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser les mouvements des gens, des humains.
Donc le taylorisme, c'est ce que tu appliques dans la construction des PBN, quoi.
C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une division des tâches et on va diviser le travail.
Et du coup, c'est quoi la différence avec le Fordisme alors ?
Alors le Fordisme, la grosse différence, c'est que les moteurs à cette époque-là sont créés. D'ailleurs, ils sont créés en grande partie par Ford lui-même. Et donc ces moteurs-là, ils vont pouvoir commencer à automatiser massivement là où c'était pas possible au temps de Taylor. Et donc une des automatisations majeures qu'a imaginé Ford, c'est le fait que c'est les objets.
Ah, c'est le tapis roulant.
C'est le fait.
Oui, que c'est des objets. Ouais, c'est ça. Ok.
C'est les objets qui viennent à l'ouvrier et non plus le contraire. Et ça change tout.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, bah, on peut, comme il y a les moteurs, on peut créer la chaîne de montage, et c'est la chaîne de montage qui va faire éclater la productivité à ce moment-là, et qui va permettre d'ouvrir le marché de la grande consommation. C'est cette invention-là, en fait, c'est les moteurs.
Ok, et eh ben écoute, du coup, je comprends beaucoup mieux l'intitulé industriel du web que tu m'expliquais au début de l'interview maintenant. Ok, super. Merci beaucoup François de nous avoir éclairé sur ton activité et sur ta vision du SEO. C'était très intéressant d'échanger avec toi. J'espère que ça a éclairé un peu tous les gens qui écoutent ce podcast. Et puis bah, on te dit bonne continuation. Et puis, à très bientôt alors.
Ok, merci. Salut Yann.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.